Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moi, quand je m'habille, quand je sortais, etc., je détestais mettre de l'argent dans des jeans. Je préférais mettre un beau t-shirt, une belle chemise, de l'argent dans des belles chaussures.
Y a pas de fumée sans feu. Qu'on veuille nous faire croire qu'il s'est rien passé.
Ce profil d'attaquant qui n'en est pas vraiment un. Avec
vraiment un même.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonjour à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute un podcast. Bienvenue dans Génération After, comme tous les soirs de 20h à 22h avec ce soir autour de la table Walid Acherchour. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Romain Canuti, bonsoir Romain.
Salut Nico, salut à tous.
Et Sofiane Zouaoui de Winamax FC, salut Sofiane.
Salut Nico, salut à tous.
On regarde le programme, il n'y a presque pas de Lyon ce soir, incroyable.
Quand même.
Si, il y en aura.
Ah si.
Après. Ah, bien sûr.
Ah, bah oui.
Mon cher qui PSG, pour moi, c'est fait au PSG, tu vois.
Ah, ouais, carrément. Ah, ouais, d'accord.
T'es dans un manque de respect.
Tu l'accompagnes, toi, déjà.
Au programme, ce soir, les gars, comprenez-vous le choix de Terem Moffi de préférer Nice à l'OM? On va vous raconter les dernières 24 heures folles à Lorient. Et pourquoi Moffi préfère Nice? Et pourquoi Bamba Dieng ne veut toujours pas redescendre à Marseille? 20h30, l'avis de Walid Acherchour qu'il voulait énoncer hier. Ce sera donc ce soir. Se faire piller, c'est le trophée du club intermédiaire à vie qui va certainement scandaliser l'homme qui est dans ta diagonale déjà ce soir, à savoir Gilbert Bribois.
C'est souvent le cas avec mes avis. Hein.
20h45, le mercato.
Salut les
show.
Gars.
Ah, entrez.
Tu m'as cité, j'ai le droit.
Il a raison.
On est chez lui, regarde.
j'ai entendu le petit jingle d'entrée. Là. C'est réapprendre le français avec Génération After. Hein.
Mmh. Ouais.
C'est les héritiers naturels de Luis Fernandez.
Non, moi ça va, je suis épargné.
Il y a moins de fautes dans l'after, je dirais. Vrai sujet. Daniel massacre la grammaire parfois.
Ah, nous, avant de démarrer l'after.
Il nous sauve.
Merci beaucoup.
On a fait de la vie. Vous, c'est catastrophique.
Ah, oui, d'accord.
Mais Daniel,
c'est
ça, c'est cool.
En tout cas, c'est sympa.
C'est sympa, ouais.
Ouais, on a un prof principal.
Si, on devrait noter,
sympa.
En fait. Je fais une feuille blanche ce soir.
Ouais.
Non, hors de question.
Ouais. En plus, t'as le flow un peu d'un prof d'histoire géo.
T'as pas besoin. Il y a déjà des gens qui le font en régie. Tu fais une fois, ils te la resserrent tous les soirs. Vous n'avez pas besoin de toi, t'inquiète. Ils bossent bien.
Les gens, c'est notamment Paul Vexio, Jimmy Brown, notamment. Voilà. Gilbert, bonsoir. Dans un instant, tu me déroules le programme de l'after à partir de 22h. Il y aura un mercato show ce soir à 20h45. Toko Ekambi s'est fait à Rennes. Les infos à Lyon aussi. 21h, le PSG. Donc ce
Walid a failli tomber de sa chaise.
Non, on lui souhaite le meilleur, comme dirait Kevin Jack.
Tu l'accompagnes ou pas, Toko Ekambi?
Oui, on va l'accompagner. Il n'y a pas de souci.
Le PSG.
J'ai aucun problème avec Toko Ekambi, moi.
Le PSG se positionne donc sur Ryan Cherki. Bonne ou mauvaise nouvelle, ou mauvaise idée, surtout, supporter lyonnais. Comprendriez-vous un départ de Cherki? 21h30, la vie de Sofiane. La gestion du Capitana, symbole du bazar au PSG, 21h45, comme tous les soirs. La chronique attendue de Jimmy. Il sera question des vacances de Léo Messi à la montagne.
Ah, il était remonté, hein, ah, Jimmy. Ouais.
Je comprends parce que personne n'en parle, en fait.
Oh là là, c'est...
Personne n'en parle.
Attention, 21h45.
Ce ne sera pas une chronique pour rire.
Exactement.
Ça sera en vitriol.
Exactement. Là, c'est un coup de gueule, un coup de poing.
Exactement, ouais.
Il n'y a pas un avis de Sofiane sur Cherki?
Oh, il va en parler.
T'inquiète pas, j'ai chauffé le micro.
À 22h donc, Gilbert Bribois, à partir de 22h avec Daniel et Flo ce soir.
Exactement, alors nous on lance la grande consultation de la gouvernance du foot français. Parce que bah oui, elle a, on en a marre.
C'est pas Cherki. Hein.
Là, on n'est pas Cherki, bonne mauvaise idée.
On voulait ce menu fretin.
C'est pas club intermédiaire, etc.
C'est pas les forfaits de ski de Jimmy Brown.
Exactement.
Ouais. Voilà, bon, vas-y alors.
Et du coup, on a un premier invité ce soir pour en parler, c'est Frédéric Thirier, qui a publié une tribune dans le JDD il y a quelques jours, là, en faisant des propositions. Donc on veut débattre de ces propositions, faire les nôtres également, et on verra de quoi ça accouche. Mais au moins, on aura mis ça sur la table. Voilà, comme l'after, on le sait, est toujours très écouté. Dans les sphères de pouvoir, si on peut donner quelques idées modestement, on va pas s'en priver. Et puis après le mercato, et puis après l'Angleterre qui dépense une thune de dingue. Vous avez vu ça, donc Julien Laurent sera là pour nous expliquer comment ils font.
Ils écrivent sur des chèques, je pense, et ils envoient ça aux banquiers.
Incroyable, Gilbert.
C'est pas insolence.
Non, c'est pas insolence.
Jour en jour, quoi.
Non, mais c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui.
Tu viens de prendre Gilbert pour un pimpin, là.
Au fond de la poche, bien, bien au fond de la poche, et ils sortent des billets, des bonnes liasses de billets.
Et ils payent.
Merci de la première ligue.
Et puis il y a les matchs en Angleterre et. En Espagne et en Allemagne ce soir, aussi en Angleterre. Mais on va parler de foot espagnol et de foot allemand avec Paulo Breitner et Fred Hermel.
Barça.
Sans jouer le handball, bien sûr. Le grand rendez-vous handball.
C'est cool, ça. Hein.
Exactement. L'équipe de France, quart de finale de
l'Euro. Le hand, tu t'en fous.
Non, moi, je regarde moi, Gilbert.
Quart de finale.
On est bien la France au hand, Gilbert?
Bah évidemment qu'on a toujours été bien.
Non mais là, ça, on a des chances de la gagner.
On est invaincu pour l'instant. On est favori face à l'Allemagne. Tu vois, c'est la génération valide. Il n'y a que le foot.
Non, pas du tout. Alors ça, c'est faux. Mais le
handball. Le paddle aussi.
Et le tennis pour les paris sportifs. Voilà.
Non, pas du tout. Pour l'amour de, du sport.
Tu regardes le biathlon par exemple?
Non. Mais j'ai des amis à moi qui s'y mettent. Enfin, ouais, qui regardent.
Et donc, je ne sais pas
quel coin. Non, moi.
J'ai des amis à moi qui s'y mettent.
Non, mais ça va,
mais je connais des gens qui ont déjà regardé du biathlon.
J'ai potentiellement ils vont le voir. On fait du biathlon.
Mais je peux pas tout regarder, Nico. Je demande, je pose question à Hubert qui suit le hand. On n'a plus le droit, Nico.
Spé foot, option tennis. Voilà, c'est comme ça qu'on peut te définir.
Gilbert,
merci. À partir de 22h, l'after avec Daniel et Flo. C'est donc parti pour Génération After. Messieurs, on n'oublie pas effectivement le handball. Et je vous rappelle les lives ce soir. Le quart de finale de la Coupe du Roi, FC Barcelone, Real Sociedad. Osasuna, Séville, FC. Et en Angleterre, donc demi-finale aller de la Coupe de la Ligue. Nottingham Forest, Manchester United.
C'est bon, on parle de Terem Mofi?
Allez, on parle de Terem Mofi. Messieurs, comprenez-vous les choix de Terem Mofi de préférer Nice à Marseille? Beaucoup de réactions sur les réseaux de supporters marseillais qui ne comprennent absolument pas ce choix. Comment choisir un club 10e de Ligue 1 quand le 3e est là? Un stade plein tous les week-ends, enfin tous les 15 jours, avec une grosse ambition.
Plein à domicile comme à l'extérieur, comme tout à disait fait. Franck Ribéry. Et alors, c'est pas si idiot que ça quand tu remarques quand même que, bah, effectivement, dès que l'OM se déplace, c'est quand même la plus grosse affluence à chaque fois et avec beaucoup de supporters de l'OM qui se lèvent sur les buts.
J'aime beaucoup les précisions de Romain Canutti.
Non, mais elle est importante. Et quand il cite Franck Ribéry en plus, c'est encore mieux. Comprenez-vous donc le choix de Terem Mofi? Alors, avant qu'on en débatte, messieurs, je vous raconte la journée d'hier avec nos infos. Marseille, je le rappelle, préambule, veut absolument Terem Mofi, deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Pablo Longoria part donc hier à Lorient pour convaincre le joueur après avoir obtenu un accord avec Loïc Ferry, le propriétaire du FC Lorient. Longoria lui expose le projet, puis lui propose de redescendre avec lui le soir même à Marseille. Mofi explique qu'il doit encore réfléchir et décide plus tard finalement de dire non. Plus tôt dans la journée, le même Longoria donne l'autorisation à un dirigeant lorienté qui est allé rencontrer Bamba Dieng à Marseille de venir avec son joueur à Lorient. Bamba Dieng arrive donc à Lorient pour passer sa visite médicale. Longoria apprend donc que Mofi choisit Nice et dit stop, pas de visite médicale pour Bamba Dieng. Longoria veut que Bamba Dieng rentre à Marseille, sauf que lui, qui est d'accord avec Lorient, ne veut pas rentrer à Marseille. Voilà, on dirait Martine à la plage hein, pour l'instant. Pendant ce temps-là, Florent Guizolfi, directeur sportif de l'OGC Nice, s'est rendu aussi en personne à Lorient pour convaincre Loïc Ferry de ne pas se faire doubler par l'Olympique de Marseille. Et il propose une nouvelle offre équivalente à celle que Lorient espérait, à savoir 30 millions d'euros, 25 millions plus 5 de bonus. Il devrait donc rafler la mise. Voilà une belle histoire, les gars de Mercato d'hiver. Et pour être très complet, pourquoi Mofi choisit Nice? On va en parler avec tes éléments également, Romain. Les nôtres aussi à RMC. Ce n'est pas une question de salaire, ni de prime, nous dit-on, mais de discours. Les dirigeants niçois, en gros, ont déroulé le tapis rouge à Terem Mofi, lui ont assuré un temps de jeu très conséquent, une place de titulaire, être leader offensif de l'OGC Nice.
Ils sont peut-être venus avant aussi, je ne sais pas si tu pourrais
alors confirmer justement, Romain. Hein. C'est ce que Romain va nous confirmer maintenant.
D'accord.
Oui, avant et même bien en amont.
Ouais, plusieurs semaines, oui.
Il y a un personnage central là-dedans, c'est Fabrice Boquet, donc qui est dans l'organigramme maintenant de
directeur
de l'OGC
général.
Nice, voilà, directeur général, qui travaillait à Lorient. Et autant où il officie à Lorient, c'est-à-dire dès la saison dernière et la saison d'avant, il avait ficelé le deal de Courtrai à Lorient. Donc autant dire de Terem Mofi qui arrive vraiment en toute fin de mercato.
Il y a une affinité avec lui.
Donc il y a une affinité surtout de ses agents avec Fabrice Boquet parce que, excusez-moi, hein, mais même si ça, on peut partager des goûters,
oui,
comme vous voulez, mais
oui,
un joueur qui a une affinité avec un directeur général. On est quand même sur du business. Donc Fabrice Boquet, il a d'abord une belle affinité avec les agents Terem Mofi. Ils ont aussi des envies pour plus tard. Ça a déjà discuté par exemple d'Enzo Lefebvre. Alors c'est pas ce mercato, attention, Enzo Lefebvre va signer à Nice, mais voilà, c'est déjà aussi dans la
de
dans
collaboration qui s'installe.
Voilà, et puis on sait comment ça marche avec d'autres joueurs. Quand je dis ça, attention, très clairement, je joue pas à la vierge effarouchée marseillaise qui découvre les vilains dirigeants niçois, absolument pas. Dans d'autres cas, c'est les dirigeants marseillais qui sont dans ce rôle-là. Donc voilà, c'est juste pour vraiment expliquer et pour dire à ceux qui sont Terem Mofi, comment il peut refuser Marseille et qui vont juger bon de l'insulter en DM sur Instagram. Ça marche pas, les gars. Remettez-vous sur les codes de Daniel Riolo. Il est à nouveau sur Twitter. Mofi, c'est pas sûr. Alors, il peut, lui, Mofi préférer Nice. Pourquoi pas. Mais pour l'instant, on l'a pas encore entendu, Terem Moffi. Je sais pas vous, mais moi, il y a beaucoup de gens qui parlent pour Terem Moffi, notamment dans son toit. Alors c'est peut-être pratique, ou peut-être que c'est juste, voilà, une belle. C'est juste ce qu'il pense lui aussi.
Après, est-ce qu'on a à l'entendre, Terem Moffi, aujourd'hui?
Non. Pourquoi? C'est-à-dire
ses agents, ses conseillers travaillent pour son avenir. On a quand même très très peu dans ce genre de situation là un joueur qui s'exprime.
Il y a des joueurs qui savent le faire dans des imbroglios comme ça.
Oui, bien sûr, là on a des joueurs qui savent, qui dit, le faire. Ce sont mes conseillers qui parlent et qui discutent.
Je vois pas pourquoi il devrait parler aujourd'hui.
Et puis même en termes de business, il a peut-être pas tout intérêt aujourd'hui à prendre la parole et à trancher dans
ce qui va se passer. Ça va très bien.
Là en tout cas, ce qui ressort sur son comportement, en tout cas ça va à Lorient, ça se passe bien. Il avait l'entraînement aujourd'hui. Si ce qui ressort, c'est que il n'est pas impacté, donc ça.
Non, ça c'est ça, voilà.
Il a joué le dernier match.
Mais après le côté non mais Nice, non. Il y va pas pour
la Coupe de France.
Nice, en fait, ce qui l'intéresse, c'est le projet sportif. Nice, on sait même pas qui est l'entraîneur dans 2 mois, dans 6 mois. Donc, on peut pas m'expliquer que c'est une question. Alors, vous allez me dire à Marseille non plus parce qu'on change tous les 6 mois, si vous voulez. Mais ça paraît quand même un peu plus clair. Donc, c'est pas une question de projet sportif. Il y a une affinité, il y a une confiance, il y a une possibilité aussi de dire.
De temps de jeu aussi, on l'a dit, Romain, c'est important.
De temps de jeu,
sûr. Oui, à Nice.
On est,
ce sont des informations. Ouais,
on est sûr que il est du. Non, mais je veux dire, le temps de jeu, tu peux l'avoir aussi à Marseille. Moffi, hein. Oui. Non, mais le temps de jeu, tu peux l'avoir aussi à Marseille.
Surtout dans la perspective où Alexis Sanchez part à la fin de la saison.
Sanchez, il attend qu'un truc, c'est de jouer un cran plus bas.
Voilà, ou alors qu'il soit repositionné. Ouais.
Non, mais après, de toute façon,
moi, je pense que sportivement, c'est close. Hein,
non, mais Alain, c'est pas loin, Nico, bien évidemment que tout est réuni pour qu'un joueur décide d'aller à Marseille plutôt qu'à Nice. Je parle bien à l'instant T par rapport à la dynamique, par rapport aux ambitions, par rapport à tout ce que aujourd'hui l'Olympique de Marseille représente, et surtout quand on voit la dynamique niçoise. Maintenant, on sait très bien, et Romain, tu viens de le dire, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte dans un transfert.
Bien sûr.
Et la pression aussi, que ce soit la dynamique, elle est positive pour l'Olympique de Marseille, mais un joueur comme Moffi qui arrive à l'Olympique de Marseille, il aura beaucoup plus de pression à Marseille qu'à Nice, surtout quand on voit les montants de transfert. Alors je sais pas si toi tu as des informations là-dessus, mais on a quand même parlé de montants assez assez élevés pour Terem Moffi.
C'est 25 plus 5.
Voilà, même une pression quand tu vas à Marseille. Si Marseille met 25 millions, je sais pas
moi j'ai l'impression que vraiment la pression qu'il y a aujourd'hui, c'est la pression de Fabrice Bocquet qui va peut-être Terem Moffi en lui disant j'ai peut-être été engagé à Nice sur ma capacité à te ramener.
Toi tu nous racontes une histoire, il y a aucun problème là-dessus. L'histoire elle est réelle, bien évidemment qu'elle est à prendre en compte. Maintenant, je te dis que aller à Nice quand il y a un discours, quand il y a une affinité comme tu viens de le dire, où il y a des personnes de confiance personnes de confiance, c'est-à-dire que il y a une relation de confiance sur un ancien deal, le joueur aussi doit se soumettre à ce que disent ses conseillers. Et je peux entendre, parce que les dynamiques dans le football et en Ligue 1 vont très vite. Hein. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est 3e. Nice, ça va très très mal. Mais Nice, il y a peut-être aussi un renouveau. Il y a des personnes compétentes qui sont arrivées, notamment Gisolfi. Et surtout, Moffi peut avoir un rôle vraiment central. Si à l'Olympique de Marseille, Moffi rate 2-3 matchs, il peut aller sur le banc avec la concurrence qu'il y a et avec Igor Tudor.
Mais une fois de plus,
à l'OGC Nice, peut-être que ça peut être aussi différent.
Je te rejoins.
Ça reste un jeune joueur.
Je trouve que, alors évidemment,
même si
citez-moi des exemples de joueurs, les joueurs qui font ça, c'est-à-dire qui choisissent, non, on va pas à Marseille parce que Marseille c'est dangereux, il faut qu'on soit dans un club. C'est des Anthony Réveillère. Enfin, je veux dire, derrière, ils font quoi comme carrière ces gens-là? Expliquez-moi, donnez-moi des exemples.
Non, mais
peut-être.
Je suis pas sûr que ce soit sa réflexion. Et moi, je suis plutôt aussi dans le sens de dire évidemment que la pression à l'Olympique de Marseille est à prendre en compte. Mais tu peux aussi le voir de manière positive. Aller dans un environnement marseillais quand il est bouillant de manière positive pour un joueur, c'est aussi, ça peut lui permettre aussi d'évoluer plus rapidement, d'être exposé différemment que Nice.
Mais de se tuer aussi plus rapidement.
Parce que la réalité, elle est là pour le moment. Même si Nice, c'est un projet en construction qui peut être très bien sur les prochaines années. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce cas, c'est que j'ai pas vu exactement, Romain, peut-être que tu pourras me donner l'information, mais je pense que les communautés Nice et Marseille, ils doivent être dans une forme de ah c'est nous qui allons l'avoir donc on est meilleur que toi, ou et moi, alors que moi je trouve que dans ce cas précis ça met en avant les deux projets, parce que t'as un projet du côté de Nice avec l'arrivée de Fabrice Bocquet notamment, de Gisolfi aussi pour structurer le club, qui permet quand même d'attirer un buteur de Ligue 1 que moi je trouve très très bon et qu'il a prouvé encore cette année, même si l'année dernière c'était un peu plus compliqué, mais qui arrive à attirer un buteur comme ça alors que en termes de classement pour le moment t'es pas convaincant du tout, et même sur la saison t'es pas convaincant du tout dans ton projet. Et de l'autre côté, l'Olympique de Marseille, je trouve que c'est bien aussi parce que mine de rien ils arrivent à leur instiller le doute alors qu'ils arrivent bien après, qu'ils ont des arguments aussi avec Longoria de persuasion qui sont forts, parce que on voit bien que même si ça fait monter les enchères etc, mais on voit bien que le doute est présent dans ce dossier. Donc déjà je trouve ça fascinant par rapport à la façon dont les infos sortent un petit peu partout. Il y en a qui peuvent trouver ça malsain, mais moi je trouve ça fascinant dans la façon dont ça fait fuiter les infos.
Et
ça
puis
fait
il y a le cas Dieng aussi pour Lorient,
oui,
on va en parler,
oui,
ça voilà, aussi c'est
donc je dis juste que je trouve que ce cas Mofi là, qui est au-delà du joueur qui est très bon, que ça met en avant la qualité des deux projets.
Reste avec nous, on va prolonger sur le cas Terem Mofi, Bamba Dieng également, qui lui, alors lui c'est sûr, il veut rester à Lorient. On lui met un avion à disposition. Non, moi je reste à Lorient.
Sauf que
ça va poser un souci pour lui depuis deux ans. Le gars,
Marseille peut jouer avec cette carte-là pour ouais. Nice.
On va en parler dans un instant.
Ça a pas l'air
de marcher,
les gars. C'est ce qu'ils sont en train de faire.
Beaucoup d'appels au 32-16, évidemment. Beaucoup de commentaires sur Direct Studio. On va prendre le temps d'en lire quelques-uns. C'est un sujet qui polarise l'avenir de Terem Mofi. J'ai l'impression qu'on parle d'un ballon d'or pour l'instant. En tout cas, c'est un beau joueur de Ligue 1. On va en parler encore dans un instant. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Romain Canuti, Sofiane Zouaoui, Winamax FC et Walid Acherchou. On est ensemble jusqu'à 22h, Génération After, comme tous les soirs de la semaine. Avant de prolonger le débat sur Terem Mofi, comprenez-vous son choix de choisir d'aller à Nice plutôt qu'à Marseille. Vous êtes nombreux à nous appeler au 32-16. On y va dans un instant. Précision importante pour ceux qui attendent le handball. Le quart de finale de la Coupe des Championnats du Monde France-Allemagne, décalé à 20h52. Donc le live commencera. On est sur place avec Arnaud Valadon dans une trentaine de minutes à cause de l'autre quart de finale qui s'est joué après prolongation.
Alors,
l'Espagne de qualité d'ailleurs. Mehdi est avec nous au 32-16, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut Mehdi.
Bonsoir à toute l'équipe.
Salut Mehdi. Heureux de t'accueillir en Génération After, Mehdi.
Alors, avant de commencer, je peux faire un petit coucou à toute mon équipe de Working Arena.
Bien sûr, vas-y.
Qui m'entendent, les fans de foot. Voilà, c'était pour leur faire un petit coucou.
Bon, mais s'ils nous écoutent, c'est très bien aussi, tu sais.
Oui, c'est sûr qu'ils vous écoutent.
Ah ben, c'est cool. Alors, Mofi, est-ce que tu comprends son choix ? Est-ce que tu le prends mal ?
Alors, honnêtement, bon, je suis supporter de l'OM. Honnêtement, c'est un choix qui est, de sa part, moi, à mon avis, hein, qui est quand même incompréhensible, dans le sens où les projets sont complètement différents entre celui de l'OM et celui de Nice. En sachant qu'à côté de ça, quand même, il n'y a pas pléthore d'attaquants de pointe à l'OM. Donc, il avait largement de quoi prouver qu'il était fait pour ce club et qu'il allait y arriver. Et au final, il fait pour moi la mauvaise décision. L'année dernière, il fait une bonne saison. Cette année, il est en train de confirmer. 23 ans, honnêtement, c'est à ce moment-là qu'il faut aller prendre un peu de risque, si je peux dire, et de se diriger vers l'Olympique de Marseille plutôt qu'à Nice. Après, je ne sais pas au niveau des conditions salariales ce qu'ils lui ont proposé, on ne sait pas. Mais honnêtement, à part être sur les hauteurs de Cannes et à regarder la croisette et puis passer du bon temps et d'avoir une fois par an le festival de Cannes, je vois pas le projet en fait. Je vois pas le projet qui est diamétralement opposé à celui de l'OM, hein, honnêtement. Mais j'espère une chose, s'il signe vraiment à Nice, que ça fasse comme Andy Delors et que dans deux ans, il vienne frapper chez nous pour peut-être le recruter.
Voilà, pas mauvaise en ce que j'allais dire.
Ah non, honnêtement, franchement, c'est...
Mais tu sais, Mehdi, je pourrais te rejoindre sur l'idée de... C'est surprenant parce qu'aujourd'hui, tu pourrais te dire l'OM, c'est quand même un choix plus évident que Nice, ne serait-ce qu'en termes de classement et même de clarté de projet, ça, évidemment. Mais ne sous-estime pas les compétences d'un mec qui a ramené Seko Fofana à Lens, par exemple. Au moment où il le ramène, c'était presque impensable puisque c'était un gros joueur de Serie A qui était très courtisé. Quand il le ramène à Lens, c'est pas du tout encore le projet. Bon, évidemment qu'il était bien mis en place, mais c'est pas du tout les succès qu'on connaît actuellement. C'était quand même incertain. Donc, ne sous-estime pas la capacité de ce genre de personne à présenter une idée sur 2-3 ans, à convaincre un joueur, à travailler depuis plus plusieurs semaines avec le même mec.
La force des mots.
Et tu vois, nous, on a un côté très froid parce qu'on regarde Nice, on regarde l'OM, on regarde un classement, on regarde ne serait-ce que le monde dans le stade. Et ça, je vais pas faire injure aux supporters niçois, ils le savent. Mais ne sous-estime pas la qualité de persuasion de ces mecs-là et leur capacité à faire comprendre à un joueur que c'est le bon choix d'être ici parce que t'inquiète pas. On va monter quelque chose d'intéressant, on va monter quelque chose de très fort autour de toi.
Et Sofiane, qu'on lui a vendu aussi, tu sais, Manchester United, bientôt, c'est la galaxie.
Ouais. Pourquoi pas
enfin, on est sais. Très loin de l'endroit.
Tu sais, TRM, là, Nice, Lorient, Nice, peut-être non,
mais,
United.
Mais peut-être que ça rentre. Trajectoire. Parce que si tu regardes bien du côté de l'Olympique de Marseille, il n'y en a pas. Je parle sous le contrôle de Romain, peut-être que je dis une énorme bêtise, mais sur les dernières années, il n'y a pas énormément de joueurs qui sont partis pour des grosses sommes d'argent en Angleterre en étant un club tremplin. Non. Bon, Camara est parti à Aston Villa, Sanson est parti à Aston Villa, il y a eu Zambon Guissa à l'époque qui était parti à Fulham, mais ce n'est pas du top 6. Première Ligue et peut-être que la vitrine niçoise ou avec ce qu'on lui a raconté, moi je me mets pas, bien évidemment que moi je suis d'accord avec ce que disait Romain, tous les supporters de l'Olympique de Marseille, il y a un choix évident.
Ah, moi j'irai à l'OM,
évidemment, j'irai à l'OM. Maintenant on est dans génération after et on doit aussi expliquer.
Ah, mais même si je suis marseillais,
mais expliquer que je peux concevoir que quelqu'un
signe à Nice.
L'exemple de Seko Fofana, il est très important parce que tu sais quand on te fait comprendre que c'est toi en fait. À l'Olympique de Marseille, ce ne sera pas lui. Il sera autour, bien évidemment, avec une équipe qui fonctionne, avec une équipe qui marche. Et c'est peut-être un discours, que ce soit pour ses agents ou pour le joueur, qui concerne et qui...
Oui, et puis on n'a pas la durée du contrat, effectivement. Bon, même si on lui dit que ce n'est pas une question de salaire, on n'a pas non plus le montant du salaire.
À Marseille, n'importe où, Terem Moffi, attaquant de 23 ans qui met des buts en Ligue 1, il ne signe pas un contrat de 6 mois ni de 18 mois.
Mais Longoria, je pense qu'on peut lui faire confiance sur le volet financier.
À ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de souci.
C'est pour ça que c'est encore plus fort de la part de Nice.
Même au côté projet, quand il y a un attaquant africain, et ça rentre en ligne de compte, il est nigérian. Alors c'est une culture anglophone.
Il y a une hype aujourd'hui sur le joueur nigérian, Osimhen, les attaquants.
Il y a juste quelque chose, c'est que tu es le 13e joueur de l'Olympique de Marseille, ça aura plus de résonance que si tu es le premier joueur de l'OGC Nice.
Oui, voilà. Peut-être.
Tu es remplaçant l'Olympique de Marseille.
Je remercie Mehdi d'abord, après 32-16. Merci Mehdi.
Ça, il n'y a pas de vérité.
Merci à toute l'équipe, merci à vous de m'avoir reçu.
C'est normal, Mehdi, t'inquiète pas, t'as une grosse équipe, mon pote.
Ça va quand même.
Et juste, Nico, on ne fait pas gagner des maillots à nos auditeurs, on fait pas gagner des maillots de l'after.
C'est moi qui décide quand on fait gagner.
Ah ouais, c'est le mec de la boutique aussi.
Je dis juste ça.
Fais ton travail, tu viens de mettre tes habits, après tu redescends à Marseille.
Laisse-moi gérer la boutique. C'est incroyable quand même. Gilbert, c'est Paperboy, il les envoie.
Ah oui, gère le score.
Romain,
gagne
le score. Désolé,
c'est bon. J'accueille Axel, je te rends la parole dans un instant. Walid, salut Axel.
Salut les gars.
Supporter de l'OGC Nice. Ça va et toi? Bah ouais, c'est normal.
Ça va, mon fils dirige vers Nice, donc ça va super. Ouais.
Bon, est-ce que tu prends ça comme un affront quand tu peux entendre comment il peut choisir Nice plutôt que Marseille?
Totalement, parce qu'il faut pas prendre la situation à l'instant T, comme l'a dit Walid. Il y a un nouveau projet qui va être lancé en février, enfin la phase 2 du projet Ineos, et ça, il faut pas l'oublier. Il y a une conférence de presse qui va se dérouler. Donc avec l'arrivée de Jean-Claude Boland au sein d'Ineos, ça River, il a dit en conférence de presse, et je pense que Gisolfi a dû lui dire à Moffi, lui a dû lui dire les grandes lignes de la phase 2 du projet qui arrive en juin, avec apparemment des moyens qui vont être mis en place, notamment de gros moyens. Et aussi, il faut pas oublier que Moffi connaît très bien le directeur général de Nice, Bocquet, qui l'a connu à Lorient.
C'est ce que disait Romain tout à l'heure.
Et c'est le dernier transfert qu'a effectué Bocquet d'ailleurs à Lorient quand il l'a ramené. Et voilà. Et à Nice, il aura une place de titulaire garantie. Bon, à Marseille, je sais pas. Mais vu la faible concurrence avec Laborde qui met pas un pied devant l'autre depuis plusieurs mois, et il a totalement sa place pour être la tête de gondole du nouveau projet pour l'année prochaine.
C'est vrai. Bon, c'est vrai que le nouveau projet, ça fait toujours un peu rire à Nice parce que ça fait des années qu'on nous parle le nouveau projet de phase 2, de phase 3.
Oui.
Je laisse finir, Axel. Vas-y, Axel.
Il faut pas oublier qu'aussi qu'à Marseille, le contexte au bout de plusieurs matchs où t'alignes des mauvaises performances, ça peut être difficile au niveau des supporters.
Ouais, là, c'est vrai que c'est pas terrible. 8 victoires, c'est
Nice, ça reste un club familial. Nice, c'est un club familial à ce niveau-là. Et il aura toute la place pour grandir avec nous, même s'il fait déjà une très, très grosse saison. je pense qu'il peut être tranquille à Nice et ça a dû compter aussi.
Après, il va falloir un coach à Nice qui fasse progresser les joueurs.
J'ai bien la peur du vélodrome.
Parce qu'encore une fois, c'est pour ça qu'il y a des plus et des moins des deux côtés. Il y a des explications un peu partout.
Je suis joueur, moi je suis content d'y aller.
Tout à l'heure, tu parlais de Seko Fofana. Moi, j'ai une autre comparaison. Alors peut-être qu'elle n'est pas.
Pertinente ?
Non. Non, elle n'est pas. Comme je dis, à chaque fois, il n'y a pas de vérité absolue sur. Et comparaison n'est pas raison. Mais je me rappelle de Galtier. Tu te rappelles après Lille et le sacre lillois,
pareil, champion de France. Même raisonnement à l'époque.
Il y en a qui comment Galtier peut refuser Lyon à l'époque? Comment il peut aller à Nice? Bon, à Nice, ça n'a pas été extraordinaire. Galtier, il a fait 5e finale de Coupe de France, mais il a été au Paris Saint-Germain derrière. Et c'est vrai que tout le monde le voyait à Lyon et tout le monde ne comprenait pas pourquoi il n'allait pas à Lyon. Et derrière, il a été à Nice par rapport à un projet qui, finalement, avec Fournier, n'a pas été, entre guillemets, aussi fructueux que les Niçois le voulaient, même si, attention, quand on voit Nice actuellement, et moi j'ai beaucoup critiqué Galtier, les résultats étaient quand même très, très corrects. Mais là, tu as quand même des personnes. Parce que tu parlais de la phase 1, phase 2 de Nice. Là, t'as quand même des personnes compétentes qui arrivent, Nico.
Tout à fait.
Jean-Claude Blanc, qui a fait ses armes, la Juventus, le Paris Saint-Germain, Gisolfi.
Florent Gisolfi, voilà. Le reste de performance de Lens qui est à Nice aussi désormais.
Voilà, donc tu commences à avoir des choix cohérents. Oui, avant, c'était pas ça.
Oui, tu disais que le début, il a raison, Axel.
Non, mais c'est pour ça, Axel, par rapport à ce que tu disais, effectivement, mettons en avant Fabrice Boquet, mettons en avant ces arguments-là qui peuvent se comprendre, Florent Gisolfi, mais ne mettons pas en avant le côté Nice est un club familial. Il y a eu aussi les visites des supporters auprès de Fournier et Galtier en plein milieu de saison dernière. Voilà, c'est pas vraiment une ambiance familiale ce qui s'est passé ce jour-là au centre d'entraînement de Nice, on va le dire comme ça. Donc voilà, ne restons pas trop, et c'est le but aussi de Génération After, dans les clichés, mais après ça peut se comprendre, et voilà, vous allez avoir Mofi, ben, profitez-en bien, faites-lui marquer plein de buts.
Mais juste une dernière chose, Romain, l'Olympique de Marseille aurait vraiment mis 25 plus 5 sur Terem Mofi?
Il y avait l'opportunité, allez, de se séparer de Bamba Dieng, on en parlera peut-être
dans un instant. Voilà. Exactement, transition toute faite, on va faire une pause. Je remercie Axel
dans le 32-16. Si c'est possible d'avoir un maillot, ce serait
sympa. Romain t'a mis dans la merde.
Romain a mis un peu dans la mouise.
Non, j'allais demander dans tous les cas. Mais...
Bon, écoute, ne raccroche pas. Je vais en parler avec
Merci beaucoup, les gars. Merci, standard.
Merci à toi, Axel. Très bonne soirée. À très vite. Dans un instant, on va parler de Bamba Dieng. J'ai envie de dire le pauvre Bamba Dieng. Comment remotiver un joueur s'il doit reprendre l'avion pour aller à Marseille?
C'est un stylo bique. Hein.
Reste avec nous, ces générations after, avec Sofiane Zouaoui, Walid Acharchour et Romain Kenuti. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Romain Canuti, Sofiane Zouaoui et Walid Acharchour, Génération After, jusqu'à 22h avant de donner le relais à 22h à Gilbert, Daniel et Flo Gautreau. L'After comme tous les soirs jusqu'à minuit. On a parlé donc de Terem Mofi qui semble se diriger vers le GC Nice. Quel avenir pour Bamba Dieng? Feuilleton permanent tous les 6 mois. Cet homme-là garnit les gazettes.
Oui, c'est la deuxième fois quand même.
Et les colonnes du Mercato. Babacar est avec nous. Salut Babacar.
Oui, salut à tous.
Supporter de l'OM, salut, je précise.
Salut Babacar.
Bienvenue dans Génération After. Bon, je rappelle les infos que j'ai données tout à l'heure. Bamba Dieng, lui, il est encore à Lorient. Il ne veut pas revenir à Marseille. Il veut absolument jouer pour Régis Lebris et le projet qu'on lui a présenté.
Attention, fin août, il ne voulait que Nice et rien d'autre. Il ne voulait entendre parler que du projet niçois jusqu'à ce que Nice lui relève.
Des selles ou
ouais, des selles, ça peut.
Une petite blessure pas résorbée au genou.
Voilà, une opération bizarre au genou, selon eux, et qui tentait de baisser le prix. Donc voilà, je veux dire, Bamba Dieng, il y a aussi une communication, mais je me mets à sa place. Effectivement, c'est très difficile d'être motivé. Par contre, juste quelque chose.
T'as envie de jouer au foot quand même à un moment donné.
Parce que Bamba Dieng, et notamment, c'est Walid qui a dit ça hier, ça m'a un poil dérangé. Mais après, je regardais ses cotes et il y avait Kevin Diaz allongé dessus avec une serviette de plage. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de place pour que je m'y mette aussi. Mais juste, Bamba Dieng, il y a juste un match où il a été, où son comportement, et on en a parlé, c'était le match de coupe là contre Rennes, où son entrée est pas du tout satisfaisante. Mais il y a vraiment qu'un match où il a pas été dans l'état d'esprit. Sinon, Bamba Dieng, il a toujours été irréprochable à l'OM, que ça soit sur ses entrées en jeu, sur son envie. Et voilà, peut que l'aider l'accident.
Ses performances sur les dernières semaines sont quand même moins bonnes.
Mais en termes d'état d'esprit, voilà, c'était bon.
Babacar, ton avis concernant Bamba Dieng justement.
Bah, en fait, sur Bamba Dieng, j'ai envie de dire plusieurs choses. La première, d'abord, c'est une pensée pour le joueur, parce que c'est un gars qui a un très bel état d'esprit. Pour connaître des gens qui sont un tout petit peu, qui connaissent un tout petit peu son entourage, ils le décrivent comme quelqu'un avec un état d'esprit top, et etc. Donc moi, si je un petit dommage pour lui parce que en fait, il n'a jamais eu de déclaration fracassante, il n'a jamais manqué de respect à personne. Et très clairement, je pense qu'on ne le dit pas assez, mais Pablo Longoria lui manque de respect et manque de respect clairement à ce joueur. Voilà. Je m'explique. Ce qui s'est passé à Nice cet été, tout simplement, Bamba Dieng, on voit tous quand même qu'il a un gros potentiel, mais qu'il doit progresser. Et la progression, peut-être que c'est compliqué de l'avoir à l'OM, parce que le maillot, il est lourd, etc. Et il n'a pas forcément le temps de jeu qu'il espérait. Voilà. Donc, il va à Nice, ça se passe mal. On apprend plus tard qu'en réalité, c'est que Nice voulait baisser l'indemnité de transfert. Donc voilà, ça montre que les clubs ne sont pas si clairs que ça. En fait, on est dans un monde où on donne beaucoup de leçons aux joueurs, de morale, d'amour du maillot, etc., plein de choses. Mais par contre, quand c'est les clubs, ça passe comme une lettre à la poste. Et aujourd'hui, Pablo Longoria, pour moi, c'est l'un des meilleurs présidents qu'on ait depuis la dernière décennie. Et ce qu'il fait, c'est exceptionnel à l'OM. Par contre, il est en train de montrer qu'aussi, il manque de place, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, Bamba, qui ne joue pas, et l'intersaison, il met un triplé lors du premier match. Après, il disparaît. On comprend. On a tous compris que ouais, c'était celui qui avait une valeur marchande. Il voulait le vendre. OK. Donc, c'est rebelote.
Ça me rappelle Babacar également, l'affaire Abouba Camara, qui l'a voulu forcer les dernières heures du mercato à partir.
Et puis au-delà de la vente, on sait
qui après il a...
on sait aussi que il avait pas les bonnes personnes autour de lui, en tout cas les personnes que Longoria voulait,
contrairement à Rose.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Attention, c'est les personnes que Longoria voulait. Parce
exactement.
Que, ils sont restés quand même si c'est pas des agents très connus ou bien des gens très connus du foot, voilà, ou qui n'ont pas de nom, mais ils sont restés droits dans leur botte. Mais aujourd'hui, ce qu'il fait actuellement, c'est dire à Bamba, en fait, on a envie de prendre Terence Moffi, mets-toi d'accord avec Lorient. Il se met d'accord avec Lorient, donc il va avoir la possibilité d'aller progresser. Et vu que Terence Moffi nous l'a fait à l'envers, parce que lui va aller à Nice, ce que je comprends, il va aller à Nice, bah tant mieux. Moi, l'OM, si tu veux jouer à l'OM, il faut que tu veux y venir. Si tu as pas envie de venir, autant ne pas forcer. Donc, on va lui demander de revenir à Marseille.
Le mec, là, il est dans sa chambre d'hôtel. On va lui demander de revenir à l'Olympique de Marseille.
Alors que, c'est excellent. Longoria, etc.
Après, les gars, c'est normal. Vous avez compris. C'est un peu la variable d'ajustement. Bamba Dieng, dans les accords de Longoria. Mais ça rentrait dans le deal avec Terem Moffi. Si le deal, il tombe à l'eau.
Vous savez que ça s'était passé comme ça avec Gignac. Vous savez que Deschamps avait envoyé Gignac en Angleterre en lui disant de la place à Mahoury. Et quand Mahoury a fait le deal à foirer, il a dit, hop, hop, reprends l'avion, reviens à Marseille.
Ça,
c'est déjà arrivé. Mais Babacar, toi qui, j'ai l'impression, qui est quand même supporter de l'Olympique de Marseille, tu sais très bien qu'avant que Pablo Longoria devienne président de l'OM, on demandait quoi en tant que supporter de l'OM de notre nouveau président? On demandait que ça soit un requin. Donc faut pas se plaindre de voir du sang dans la mer. On a un requin.
Oui, mais là, si tu places du côté de Bamba Dieng quand même, sur
totalement. Mais regarde,
comment tu veux retrouver un mec motivé si ça se passe pas?
Ça, on te dit pas ça. Mais juste par rapport à ce que dit Babacar.
Deux, trois mauvais matchs. On va lui tomber dessus en disant c'est lui le fameux Bamba Dieng. Mais l'état d'esprit, tu peux le tuer un joueur comme ça. Et si jamais il se permet ce soir de dire je vais aller à Nice et qu'on finalement lui dit de rentrer, c'est lui aussi qui va se reprendre la patate chaude par les supporters. Donc vous voyez, pour moi c'est un tout petit peu malsain cette façon de faire.
Alors
une petite phrase
juste préciser, il a proposé Leeds, hein. Regarde ce que fait Leeds cette saison. Au final, Bamba Dieng, au lieu de s'entêter à Nice avec ses conseillers, il aurait peut-être mieux fait de choisir Leeds. Hein. Quand tu vois la saison de Leeds.
Non, mais la réalité, juste pour finir, je suis totalement d'accord avec toi, Bamba, mais il y a aussi une autre réalité, c'est que. Babacar, sur Bamba Dieng, justement.
D'accord avec Bamba Dieng.
Ouais, c'est Bamba Dieng. Mais je suis totalement d'accord avec toi parce que il y a aussi un autre truc à dire et à préciser, c'est que, au final. Tant que Longoria, il aura ses succès, il pourra se permettre ce type de move. Donc ça aussi, c'est important à préciser. Les supporters, malheureusement, ils iront difficilement dans le sens de Bamba Dieng.
Je te précise, Romain, que Leeds est 15e de première ligue. Hein.
Ouais. Tu l'as vu jouer
délirant sur.
Tu l'as vu jouer.
Je crois qu'il s'est arrêté au début de saison de Leeds.
Ils ont un point d'avance sur le sommet relégable.
C'est pas mal. Hein.
Romain, t'es resté à l'époque Bielsa, je crois.
Et en fait, il s'est arrêté au 3-0 contre Chelsea en début de saison.
Non. Je regarde.
Babacar, merci d'avoir fait le 32-16.
Merci à vous.
Merci Babacar.
Et Walid, laisse Toko Ekambi tranquille, s'il te plaît.
Ah, bah attends, on va en parler.
tu te trompes sur ta carrière. Hein.
Mais
regarde,
je n'ai rien.
Regarde bien ta carrière.
Je n'ai rien. Mais je n'ai rien avec Toko Ekambi. C'est dingue. Comme...
Il veut l'accompagner.
Tu te traites comme si c'était un jour de
régional. J'ai dit que c'était un jour de R1.
Et tu verras.
J'ai
et
dit ça.
En fait, parce que vous mettez Lyon trop haut. Lyon est devenu un club de milieu de tableau.
Tu vois, t'es avec moi.
Toko Ekambi a sa place à Lyon.
J'ai jamais dit ça, Babacar, mais bon, je te trouvais très pertinent en plus, moi, dans ta diatribe.
Mais il est toujours pertinent.
Ah, ça y est, ça y est.
C'est dommage, mais on a.
Allez, Babacar, merci. Tu merci, rappelles quand bon tu soir, veux. 32-16 pour nous parler dans Génération After. Les gars, je vous rappelle qu'il y a des matchs en direct également ce soir qu'on va suivre et qu'on suit déjà à 21h le Barça face à la Real Sociedad. Quart de finale de la Coupe du Roi au Osasuna Séville. Le Borussia Dortmund s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Mayence.
Dans les dernières minutes de jeu.
Exactement. Mayence, nouveau club de.
Ludovic Ajorc.
Ludovic Ajorc. Ryerson et Reina.
Dortmund, gros match aussi ce week-end.
Voilà. Et puis, on va suivre également ce soir d'autres matchs de Bundesliga, de Berlin.
Sabatier, qui commande dans ce moment, je crois que sa voix va nous quitter.
Allez, reste avec nous. La suite de Génération After dans quelques secondes. Le quart de finale du mondial du handball. On n'a pas oublié les handballeurs France-Allemagne avec Arnaud Valadon, qui est sur place. On y va dans quelques secondes, c'est à Gdansk, en Pologne, magnifique ville étudiante. Reste avec nous, Génération After, sur RMC, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamin.
Et RMC et d'écouter Génération After avec Walid Acharchou, Romain Canuti, Sofiane Zouaoui. Je vous rappelle qu'à partir de 21h, on parlera du PSG qui a fait une offre à Lyon pour Rayan Cherki. On vous attend, supporter parisien, qu'en pensez-vous? Supporter lyonnais également, qu'en pensez-vous? Jean-Michel Aulas a tweeté, on lira son commentaire publié aujourd'hui dans quelques minutes. C'est du handball ce soir, un match important. Le mondial de hand à Gdansk en Pologne. France-Allemagne, quart de finale sous les yeux d'Arnaud Valadon, envoyé spécial en Pologne. Salut Arnaud!
Salut Nico, salut à tous!
On est favoris, ça va passer, on est d'accord.
On est favoris, c'est toujours un classique du handball, France-Allemagne, c'est un petit peu comme France-Angleterre en football, c'est la France contre le pays qui a inventé le sport, en l'occurrence le handball, ce sont les Allemands. Oui, on est favoris, oui, on veut une 7e étoile, mais c'est aussi le premier match à élimination directe. Il y a eu 6 matchs de poule jusqu'ici, 6 victoires pour les Français, mais là ça change tout face à une équipe allemande en pleine révolution qui a subi une vraie cure de jouvence et de rajeunissement. Donc il va falloir être méfiant, canaliser cette jeunesse allemande, nous avec tous nos éléments expérimentés. La bonne nouvelle, Nicolas Karabatic est de retour sur la feuille de match. Il avait été préservé, il avait reçu un coup sur le pied, ça faisait mal, il va serrer les dents, il nous l'a dit hier, mais il est bien présent pour cette affiche France-Allemagne qui va démarrer à 20h52 précisément.
Et ce sera avec toi au commentaire à tout à l'heure, cher Arnaud. L'avis de Walid Acharchour: se faire piller, c'est le trophée des clubs intermédiaires. Jingle Walid.
T'as commencé à devenir un petit peu effilé façon oignon.
Tu nous as dit ça ressemble à Bouteflika.
À Bouteflika, oui. Oh. Malheureusement, à ce moment-là, j'ai dit on va raser le kiwi.
Ah, je connaissais pas celui-là. Inédit ou quoi?
Ça date.
Ça date, ouais.
Le kiwi, c'est moche.
Raser
le kiwi. Horrible, le kiwi.
Ouais.
C'est vrai que tu ressembles à un kiwi.
T'as une tête de kiwi, c'est vrai, ça?
Ouais, t'as une tête de kiwi, ouais.
Là, je suis en mode kiwi parce que ça repousse.
On en pense quoi du kiwi d'ailleurs?
J'aime bien.
Le kiwi vert, les gars, bien meilleur que le kiwi jaune. Bien meilleur que le kiwi vert.
Tier list fruits verts, c'est
plus cher. Moi, j'ai du mal à l'éplucher, donc ça m'énerve.
Il est pas dans mon top 5.
Tu épluches ton kiwi?
Ouais.
Moi, je coupe en deux. La cuillère, tu sais, comme le melon.
Ah, ouais, comme ça.
La cuillère, et tu retires juste le kiwi.
Top 5 fruits, c'est vrai qu'il peut pas y prétendre.
Il est pas dans mon top 5 fruits, mais c'est.
Ah bon?
Ah, bien évidemment.
Non, c'est pas.
Top 5 fruits kiwi?
C'est un gros niveau, la division du fruit.
D'accord, mais vitamine.
Il y a pas.
Et l'animal, le kiwi, on en pense quoi? Mais qui s'arrête jamais.
Allez, c'est parti, Walid. Ton avis, pourquoi se faire piller, c'est le trophée des clubs intermédiaires? On parlait de Lorient, ce qui est un exemple là.
Oui, bien évidemment, Lorient, mais pas que. Je voulais un peu évoquer ce débat-là parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de débats justement sur ce qu'est en train de faire Lorient, parce que le timing en janvier est quand même problématique. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus, beaucoup moins préjudiciable de se faire piller l'été qu'en janvier. On peut au moins anticiper. Et moi, ce que j'aimerais mettre en valeur ce soir, c'est que aujourd'hui, bien évidemment, que les supporters sont en droit de critiquer la politique sportive de Lorient ou d'autres clubs, mais ça montre quand même que le club travaille bien, qu'ils sont sur la bonne direction. Lorient ou d'autres, hein, je peux parler de Lens, notamment sur les dernières années, qui ont perdu énormément de joueurs. Je peux parler d'autres équipes en Europe, notamment Brighton cet été, l'Ajax, Southampton sur les dernières années, même si cette année c'est un peu moins bien. Mais ça montre que la direction du club va dans le bon sens, que le projet sportif va dans le bon sens. Et je pense, moi, qu'aujourd'hui, les clubs, par rapport à ce qui se passe en première ligue, notamment, je sais qu'à 22h, ils en parleront, il va falloir s'y habituer et surtout il va falloir essayer de l'anticiper et de travailler avec ses fonds pour pérenniser le club et pour continuer à être dans la compétence et pour mettre ses profils en recrutant des joueurs pour les remplacer en adéquation avec le coach et avec ce que met en place la politique sportive. Et moi, on peut prendre les exemples de Lens notamment. Cette année, ils ont perdu énormément de joueurs avec Cheikh Doucouré qui est parti à Crystal Palace pour une grosse somme d'argent. Ça a été très très bien remplacé par Abdoul Samed. On va pas faire tous les joueurs au cas par cas, mais je pense que si tu as de l'anticipation, je pense que si tu as de la compétence, je répète, si aujourd'hui tout le monde va dans le bon sens avec cette somme d'argent là. Je pense que tu peux faire de très très belles choses. Et surtout, je trouve que le fait de développer une idée de jeu dans ton club par un coach, par un entraîneur, donc là on parle de Frank Hayes, on parle de Lobry, on parle de Graham Potter à Brighton, des coachs à Southampton à l'époque, Pochettino, Koeman à l'Ajax, Ten Hag, etc. Ça te permet de valoriser ces joueurs-là dans ton club et surtout de pouvoir en ressortir grandi financièrement.
L'idée de jeu valorise les joueurs.
Exactement. Ouais. Et de te retaper derrière une équipe parce qu'avec cette somme d'argent, Mofi le fait, j'espère qu'il va pas partir, mais Ouattara, etc., etc. Ça te permet derrière de pouvoir. Par contre, attention, il faut que ce travail-là soit fait par les dirigeants et suivre ce que font les dirigeants lorientais ou lensois avec cet argent pour continuer à donner cette continuité dans ce club-là et de donner les moyens à ton coach de poursuivre cette ascension. Mais moi, je pense que dans ces projets-là, tout à l'heure, on parlait de phase 1, de phase 2, de phase 3. Et à Lens, on a eu une phase 1, ils se sont fait piller, même si, attention, le terme n'est pas juste, hein, tu te fais pas piller, tu prends quand même une grosse somme d'argent. Pour avoir cette phase 2 et pour avoir cette phase 3, la même chose pour Brighton.
Ouais, c'est pas interdit de progresser.
Voilà, exactement. Et je pense qu'avec, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu es obligé d'être dans cette économie-là par rapport au football moderne. Et je pense que ça montre, quand je parle de trophée, bien évidemment que ça reste abstrait, mais que ton équipe et ton club est sur la bonne voie et sur la bonne route.
Équilibre fragile quand même, parce que anticiper c'est bien, trouver un bon remplaçant,
oui,
c'est pas
mais
forcément
c'est possible
avec non plus.
C'est possible.
À ceci près également, si on parle de Lorient, c'est que là c'est en cours de saison.
Mais beaucoup.
Cheikh Doucouré, c'était en fin de saison. Merci, au revoir, on anticipait. Là, tu brises une dynamique, même si le maintien n'est pas loin.
Nico, tu peux changer de dimension. Il y a des clubs qui te diront, et tu parles avec les dirigeants de Montpellier, ils vont te dire, on a vécu deux choses. On a vécu le titre et on a vécu un été. Il y a une saison où on a vendu Delors et Laborde. La vérité, c'est qu'on préfère le deuxième. Parce qu'on a vendu Delors et Laborde, on a fait un cash flow exceptionnel. On a réinvesti sur quoi? On a pris Valère Germain en fin de contrat. On avait tenté un pari, là, un attaquant de camp qui est, je crois,
perdant à l'arrivée.
Ben, perdant, oui et non. Alors que Montpellier, est-ce qu'ils n'étaient pas plus en danger après le titre, quand ils ont dû mettre des salaires incroyables à des Henri Bédimo et consorts, et qu'ils se sont mis, c'est peut-être qu'ils étaient plus en difficulté sportive et financière à ce moment-là, que par rapport à cette vente-là. Mais tu as une capacité, voilà, de dire tu peux progresser, tu peux te servir de cet argent pour sortir quelque chose. Walid disait, il y a un projet de jeu incarné avec un coach. Ça tombe bien, c'est le cas à Lorient, avec Régis Lebris. Profites-en à l'échelle de la Ligue 1 pour faire ce qu'a fait Southampton, qui est un super exemple à l'époque, quand ils ont perdu des Sadio Mané et tout ça. Derrière,
tous les ans, ils perdaient 4 joueurs, même en janvier, ils perdaient des joueurs.
Ils ont recruté plein. Lorient. Assèche la Ligue 2. Non, mais si tu es Lorient, là, assèche la Ligue 2. Prends, dès qu'il y a un mec qui fait 3 bons matchs en Ligue 2, paf, il est chez toi.
C'est pas le seul, hein,
t'as les moyens financiers.
Et puis surtout, c'est un cercle vertueux parce que, et je laisserai la parole à Sofiane derrière, ces joueurs-là, les agents, les joueurs, vont vouloir venir jouer pour Régis Lebry, pour Lorient, parce que ils se disent que derrière,
ce qui fait progresser leur
joueur. Voilà, ils sont mis en valeur, et je pense que le plus important, ça reste la direction sportive et le coach. Maintenant, bien évidemment, je répète, ce qui est important, c'est la phase 2 de ce que tu en fais, ce que tu fais de cet argent-là. Quand Brighton se fait piller en cours de saison, Graham Potter pour récupérer De Zerbi qui vont peut-être perdre Caicedo, ils seront remplacés. L'année dernière, ils ont perdu Cucurella qui est parti pour une grosse somme d'argent. Des clubs comme Benfica ont perdu Núñez, ils l'ont remplacé, ils vont peut-être perdre Enzo Fernandez en janvier, ils vont continuer à le remplacer, mais c'est des grosses sommes d'argent, 120 millions d'euros, 100 millions d'euros à l'échelle de Benfica, c'est bien supérieur à Lorient, mais capitalisons là-dessus. Moi, mon message de ce soir, c'est de se dire bien évidemment que les supporters peuvent être mécontents parce que ça te casse une dynamique, parce que ça va être compliqué, mais aujourd'hui, c'est l'état des lieux du football. Et enchaînons avec cette phase 2 et essayons de profiter de cet argent pour continuer à être dans la compétence et de suivre cette voie. Même si c'est pas simple, hein, bien évidemment.
Moi, ce qui me dérange juste avec l'avis de Walid, c'est le terme trophée. Parce qu'en réalité, on se met
trophée,
dans la...
c'est une tournure de phrase.
Oui. Non, mais même, je vais aller plus loin parce que j'ai cet exemple sur les clubs intermédiaires.
C'est pour
parce
nous, les observateurs.
Déjà, faudrait catégoriser les clubs intermédiaires parce que Lorient est un club intermédiaire de Ligue 1 et on pourrait considérer, par exemple, que Benfica est un club intermédiaire d'Europe, tu vois, c'est quand même un peu différent.
Bah non, mais
sur l'idée de trophée, moi, là où je me méfie un petit peu, c'est que si, évidemment, c'est une réalité, c'est-à-dire que les...
Tu te méfie?
Oui, je me méfie, exactement. Mais je me méfie parce que, en réalité, si on rentre dans cette logique-là, qui est une réalité, on va aller aussi dans le discours des dirigeants qui vont profiter de nous, je dis de nous, des suiveurs, des supporters, pour accentuer encore plus ce système de vente. C'est-à-dire que si aujourd'hui, un supporter de Lorient, il acte le fait que ça sera toute sa vie un club intermédiaire, ce qui est probablement une réalité, et qu'il acte et qu'il dit bah, écoute, nous, perdre Terem Mofi au mercato hivernal, c'est notre histoire et c'est comme ça.
Mais tu penses que c'est les ambitions de Lorient aujourd'hui,
les ambitions, en tout cas,
se maintenir en Ligue 1.
Bah, voilà, si t'es un club intermédiaire,
oui, c'est
très bien.
Il faut l'acter, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être non plus. On peut pas se dire on va dans le sens de Loïc Ferry qui est de dire c'est comme ça et ça sera pas autrement. Bien sûr qu'il y a une réalité économique, hein, mais est-ce que vraiment Lorient est capable de garder Mofi peut-être et de le vendre cet été? On pourrait aussi se poser la question, pourquoi se faire piller entre guillemets dès ce mercato hivernal? Ce serait une obligation,
ouais, une obligation.
Et tu pourrais rien faire,
mais
par rapport
à
ça
de garder 6 mois de
mais il y a la réalité sportive, Romain, parce que sportivement Lorient, ils sont sur une saison où ils peuvent peut-être encore plus capitaliser et peut-être encore plus mettre en avant leurs actifs. Ils peuvent tout simplement, et un respect de la continuité d'une saison et du supporter.
Sofiane, j'ajoute également finir le plus haut possible au classement, pour gagner plus d'argent
en fait, c'est là
la répartition des droits télé.
C'est là où
finir 6e, c'est pas finir 9e ou 10e, c'est ça la question aussi.
Et c'est là où je dis attention au piège, parce que nous on est tout le temps dans une réalité, mais c'est vrai ça, c'est qu'en Ligue 1, nos revenus, et c'est pour ça que la comparaison avec la Première Ligue, pour moi, elle me va pas. Parce qu'un Brighton, évidemment,
moi, je t'ai parlé de Lens.
Non, mais je disais juste Southampton. Pour moi, Southampton, quand ils perdent des joueurs, déjà ils récupèrent le cash et puis ils ont les droits TV qui sont, je sais pas combien de fois supérieurs à nous. Nous, on est dans l'obligation de générer du flux de transfert régulier. Ça, j'en ai bien conscience. Mais attention à pas rentrer dans cette idée où c'est une obligation et il y a pas de limite. Pour moi, il y a une limite. La logique sportive, parfois. Peut-être tu peux mieux faire. Peut-être que Mofi, t'as des possibilités de le garder jusqu'à la fin de saison.
Et à la fin de saison, si ça se passe mal, s'il y a plus d'offres,
il y aura toujours.
Il y aura
toujours. Il y a pas de raison.
Mais tu me parles de continuité sportive. Si Régis Aubry, il y a un projet, il y a un profil jusqu'à la fin de la saison. Moi, je suis désolé. Tu peux aussi faire parfois des choix qui vont dans le sens du sportif. Et le financier continuera à suivre, ce qui est le cas avec Lorient.
Voilà.
Attention à pas se faire endormir par ce discours-là.
Mais personne s'endort. Non, mais je parle pas forcément que de Lorient, mais même Marseille, il y a plein de joueurs, toutes les saisons avec Longoria, il y a des joueurs qui sortent, il y a des joueurs qui arrivent. Je suis en train juste de te parler que, actuellement, que ce soit en Ligue 1, il va falloir le comprendre pour les supporters, et c'est le football qui est mouvant, c'est le football moderne qui le demande.
Vous avez compris,
mais que la compétence peut encore une fois, dans l'anticipation, régler ces problèmes-là.
On est d'accord sur ça.
Voilà les gars, c'était très intéressant. On verra aussi, on en a parlé hier soir de l'after, hein, comment Loïc Ferry serait important. Va
c'est ça, la phase de
investir les environ 50 millions d'euros qu'il va toucher sur 60
Mofi
Ouattara. Exactement. On n'a pas oublié la page Mercato, on la fera tout à l'heure les gars. Il y a du handball également ce soir. Quart de finale du Mondial, France-Allemagne, Arnaud Valadon.
Un bon début pour l'équipe de France. C'est parti depuis 5 minutes 20 et ce sont les Allemands qui mènent d'un but 5-4. On n'y est pas dans les attitudes défensives pour l'instant.
Pause et on revient dans un instant. Génération After sur RMC Matin 57. Le PSG, Cherki au programme. Le Mercato Show également. Et la gestion du Capitana, symbole du bazar du PSG. À vite Sofiane à venir également. C'est le programme de la deuxième heure. À tout de suite.
Génération After.
RMC. Ce qui est formidable dans le football, c'est que l'avis du chauffeur de taxi vaut celui de n'importe lequel de ses clients.
Est-ce que pour toi, à ce moment-là, il est ballon d'orisable ? Entre guillemets, ballon d'orisable, mais il devient ballon d'orisable. Si on parle d'un objectif ballon d'orisable, il devient ballon d'orisable.
Mais c'est pas reproduisable. C'est pas reproduisable parce que tu as l'arme Kylian Mbappé dans ton équipe.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Walid Acharchour, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui de Winamax FC. Dans un instant, on parle de Ryan Cherki. On vous attend supporter lyonnais, supporter parisien au 32-16. Le handball également. Quart de finale du mondial. France-Allemagne, Arnaud Valadon.
De jouer ici à Gdansk et 3 buts de retard pour l'équipe de France menée 8-5. Il souffre notamment face à la nouvelle pépite allemande, Yuri Knorr. Tu m'excuseras le jeu de mots, mais on prend un petit bouillon
pour ce début de partie. Pas mal.
Et Knorr, j'adore comme tu veux. Et Nicolas Karabatic en échec, on n'y est pas pour l'instant. 3 buts de retard pour les Bleus, 8-5, 9 minutes de jouer.
Il aurait dû tenter la roucoulette.
Ouais. Ah, c'est l'expression que les non-initiés handball.
Et le Chab aussi, le Chabala. Spécialiste.
Ah, le Chabala, ils n'en sont pas là, je pense.
Ah, mais pourquoi il décale pas Lucas Ballot derrière là?
C'est que c'est Lucas Ballot en fait.
Hein. Oui. Non, c'est Lucas Ballot. J'ai quand même une culture hand quand même, Nico.
D'accord.
Je te mets en slip moi sur les débats hand. Hein.
Je te mets en slip. Là, je sais que je porte des caleçons.
Ah d'accord, bah, je te mets en caleçon.
C'est important de le dire. Et ensuite, je suis pas sûr. Walid, petit taquet sur Direct Studio te concernant pour Acharchour, nous dit Pascal.
Ouais.
Seul le pognon compte. Tu vends tes meilleurs joueurs en cours de saison, mais tout va bien.
Non, mais c'est extraordinaire, toi, Pascal, en fait. Totalement d'accord.
Walid, apôtre du CAC 40, c'est le monde de la finance.
Il a rien compris. Rien compris du tout.
Bah si, il a compris. C'est très clair quand même.
C'est super. Dango Ouattara.
T'as du pognon, tu prends. C'est
25 millions d'euros sur Dango Ouattara. Il fallait refuser. Et Terem Moffi, qui l'année dernière a passé une saison blanche.
Il y a 10 millions d'investissements.
Il fallait 30 millions sur Terem Moffi, il fallait aussi refuser. C'est super.
Walid, respecte Pascal qui rêve de finir 7e de Ligue 1. C'est tellement mieux que finir 9e.
Au lieu de prendre le débat au-dessus en disant avec cet argent, on va continuer à travailler et être dans cette direction, c'était l'avis du soir. Non, on retient l'aspect finance. Ouais, je suis désolé, je suis déçu.
Un homme de la finance.
Je suis déçu.
Et Ouattara, c'est pas 27. Il y a une petite entrée au capital d'un mec. Donc
combien?
Bah, c'est l'entrée au capital d'un mec qui est évalué à 10 à peu près.
Et puis c'est 27 bonus compris aussi. Bon, hein, bonus encore le
on était plus proche de 15 que de 27.
Okay. Voilà. Ouattara, mais bref, 20 matchs en Ligue 1.
Allez, on avance. Les gars, le mercato show dans quelques minutes également. Mais d'abord, une des actus du jour en Ligue 1. Le PSG se positionne sur Ryan Cherki. Est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée? On vous attend, supporters parisiens et également supporters lyonnais. Bien sûr, le PSG qui a fait de Cherki sa priorité offensive lors de ce mercato d'hiver. Première offre formulée à l'OL, dont le montant n'a pas filtré. Il lui reste, je rappelle, 1 an et demi de contrat. Réaction, vous savez, il est toujours très prompt hein, et réactif, le patron de l'OL, président délégué de l'OL, Jean-Michel Aulas, sur Twitter. Ryan est un enfant du club qui s'inscrit dans notre projet, le voir courtisé est normal et nous rend fiers de notre académie aussi, mais l'avoir avec nous est bien plus important que tout. Voilà.
T'as pas rajouté le hashtag Ryan.
Hashtag Ryan.
On peut parler de
cette
parler de cette décla déjà.
Il est hashtagué.
Non, il est hashtagué.
On peut parler de cette décla ou tu vas sur autre chose?
Écoute, tu peux y aller, vas-y. Okay. Et après, je continue.
Parce que là, dans la déclaration, moi, ce qui me plaît, maintenant, j'ai pris l'habitude avec Jean-Michel Aulas, c'est que lui, ce qui lui plaît, en fait, dans l'histoire de Cherki, en tout cas, ce qu'il met en avant, c'est que de le voir courtisé, c'est le symbole de la réussite. Et ça, moi, j'en ai marre. J'en ai marre parce que ça fait 10-15 ans que c'est le cas. Ça a commencé, évidemment, le représentant de ça, c'est Karim Benzema quand il part au Real Madrid. Et suiveur lyonnais, on a été bercé par ça et finalement on a pris des mauvaises habitudes, je crois. Et à 32 ans, je pense que je m'en rends compte maintenant et j'espère qu'il y a pas mal de supporters lyonnais qui s'en rendent compte. C'est-à-dire que la fierté dans ce club, elle passe par la réussite des joueurs ailleurs, pas chez toi, mais ailleurs. Et ça, ça me plaît pas du tout. Et ce raccourci là qu'on a pris avec Jean-Michel Aulas et qui est très bien expliqué dans son tweet d'ailleurs, qu'il assume totalement, c'est la preuve en fait que dans ce club, tout le monde est vendable. C'est-à-dire que Cherki, Fekir à une époque c'était pareil, Ndombele c'était pareil, Oussem Aouar c'était pareil, et que le premier responsable de cette situation là, c'est le président, c'est lui-même qui le met en avant. Et aujourd'hui, vu que la direction sportive ne suit plus et que t'as plus d'idées pour remplacer ces mecs là, tu te retrouves avec une équipe qui est affaiblie.
Mais c'est bizarre, il y a pas un repreneur.
Repreneur pour l'instant, il met du temps à mettre l'oseille apparemment. Okay. Mais ce que je voulais dire par rapport à juste ce débat là, et après on parle à Cherki au PSG, c'est qu'au final, Lyon se met dans une position de victime depuis des années. Et on a fermé les yeux par rapport à ça, parce que ça fonctionnait à peu près. Ça fonctionnait à peu près. Mais maintenant que ça ne va plus, je trouve que c'est un club, ça se voit, ça explose maintenant au visage de beaucoup de personnes, dont moi. C'est que c'est un club qui s'est mis dans une position de victime et qui s'est mis dans une position de club faible. Et par la voix de son président en premier lieu.
Mais surtout, Sofiane, pour revenir sur la déclaration très rapidement, ouais. Il est dans une entreprise de com. Mais
qui fait mal au club.
Non, mais qui fait mal au club. Mais surtout, personne n'est dupe. On a bien compris. Là, le signal, c'est regardez les supporters. Je suis à fond derrière Ryan Cherki. Mais le problème avec Ryan Cherki, c'est que si demain le Paris Saint-Germain met une somme d'argent conséquente pour Ryan Cherki,
ce sera pas délirant. Hein. Je rappelle qu'il reste un an et demi de contrat. Voilà, là.
Même s'ils sont un peu bloqués par le FC.
18 matchs cette saison, 3 buts, 3 passes, 1 but. Hein.
Le problème, enfin, Nico,
pas
avec
délirant non plus.
Le problème, Nico, avec Ryan Cherki, c'est qu'il prend déjà 250 000 euros par mois aux alentours.
On peut expliquer juste pourquoi ?
Bah, explique-nous.
Ouais, juste après, je te laisse tranquille. C'est quand il signe le contrat, il est très courtisé. Ouais. Enfin, je parle du premier contrat professionnel. Ouais. Il est très courtisé et vraiment, aujourd'hui, ça paraît délirant. Ouais. Mais à l'époque, t'es obligé de faire ça, sinon tu laisses
mais
partir.
Mais le problème avec Ryan Cherki,
ça cause des problèmes aujourd'hui.
Qui se répète là ?
Pardon ?
Oui, une question. C'est pas l'histoire qui se répète.
J'allais y venir.
Non, avec Cherki, c'est un cas particulier.
Non, mais Romain, j'allais y venir. C'est qu'en fait, le problème avec Ryan Cherki, c'est que il représentait dans cette académie comme la star qui devait exploser et tout péter à Lyon, tu parlais de Karim Benzema tout à l'heure, qu'en fait ils sont pris au piège à l'Olympique Lyonnais. C'est que ils ont été obligés ils ont été obligés de le valoriser à ce salaire-là, alors que il ne le méritait pas entre guillemets sportivement. On parle quand même d'un joueur qui a 19 ans. Non, mais quand je dis il le méritait pas sportivement, c'est qu'il était très très fort en jeune, mais pour l'instant donner 250 000 euros. Non,
mais ça c'est plus le système qui vaut ça.
Bien sûr.
Pour le coup, je peux critiquer l'OL sur beaucoup de choses, mais j'entends ce que tu dis. J'entends. Ils sont bloqués par rapport au salaire.
Voilà, ils sont bloqués par rapport au salaire. Et le problème, c'est que s'ils sont à 250 000 euros aujourd'hui et que le Paris Saint-Germain avec cette entreprise de communication, on en parlera après, finalement, ne vient pas. Cherki va toquer, il va dire oui, mais moi, il me reste un an et demi de contrat. Vous avez vu, en fait, le Paris Saint-Germain, ils me veulent, et un tel. Sauf que Lyon, ils sont piégés. Ils peuvent pas donner le meilleur salaire du club à un joueur qui vient de s'imposer titulaire dans une équipe. Avec le, j'aime beaucoup ce que fait Cherki là, récemment, même si je l'ai beaucoup critiqué. Mais ça, c'est très très récent et tu ne peux pas t'aligner sur ça. Donc Nico, en fait, son entreprise de communication, ça veut dire quoi? Moi, comment je le lis? Mais hélas, moi, je suis à fond derrière le soldat Ryan pour pas faire de mauvais jeu de mots.
Ça devait être fait, je pense, oui. Mm-hmm.
Mais par contre, le Paris Saint-Germain, s'ils mettent 50 millions d'euros ou 40 millions d'euros, je dis un prix au hasard. Les supporters, vous avez bien vu, j'ai essayé, mais là quand même 50 millions pour Ryan.
Ça passe même pas.
Voilà, bah, je suis pas sûr.
Alors, les gars, je finis sur les infos.
Parce que le problème, c'est qu'il ne pourra pas s'aligner à un moment donné sur ses montants en termes de salaire.
On a les appels, le 32-16 de supporters lyonnais et parisiens. Je finis les infos, Romain, avant de te donner la parole également. Pourquoi Cherki à Paris? Luis Campos aime beaucoup le profil. Hein. Ce sont des informations RMC Sport, joueur qu'il considère comme l'un des grands potentiels de sa génération.
Bah, c'est totalement Campos Mercato. Désolé.
Et on va parler de travail de Campos. On va en parler justement, c'est un autre débat, le travail de Campos, on va essayer de le juger également si on attend depuis son arrivée au PSG. Il le suit depuis plusieurs années. Ce que l'on sait également, c'est que Cherki a très envie de rejoindre le PSG. Ça, je vous le dis ce soir. De retrouver son ami Kylian Mbappé.
Ah.
Je précise d'ailleurs que le conseiller de Ryan Cherki est un proche de la famille Mbappé, de la mère de Kylian notamment.
Ah d'accord.
C'est une connexion en plus. Hein, de là à dire qu'elle peut faciliter le transfert,
je ne le dirai pas. On va pas dire ça non plus. On va pas le dire.
Bon, conseiller est connu. Hein.
Ouais. On va pas le connaître. On va pas le dire.
Un ancien journaliste.
Tout à fait.
Donc je vais accueillir maintenant Pierrick au 32-16. Salut Pierrick, supporter de l'Olympique Lyonnais.
Salut tout le monde. Salut.
Bienvenue dans Génération After. Heureux de t'accueillir, Pierrick. Alors, nous t'écoutons sur le cas Ryan Cherki. Est-ce que toi, Lyon, doit tout faire pour le garder, même si l'offre est très intéressante pour les finances du club?
Bah, s'il y a une offre vraiment au-delà de la valeur réelle du joueur, bah oui, autant la prendre parce que bon, il y a un contrat qui est là jusqu'en pendant encore un an et demi. Si c'est pour pas le vendre et au final dans un an, et le lâcher, enfin le lâcher à perte, autant le vendre tout de suite. Mais moi, je pense qu'il faut essayer de le conserver. C'est il y a pas grand chose qui va en ce moment à Lyon. Quel message encore on enverrait aux jeunes, franchement. Il y a le PSG qui vous courtise. Allez-y les gars, partez. Donc on s'assoit sur quoi? On change de joueur tous les deux ans. On change d'entraîneur tous les ans et demi. Faut aussi, je pense, garder une ossature et bah, Cherki, il peut faire l'ossature entre les jeunes, entre l'équipe première, etc. Et donc moi, je suis plutôt pour qu'on garde. Franchement.
Ça rejoint le débat.
Ce serait négatif de
une petite précision. Vas-y. Juste sur le contrat, parce qu'on dit un an et demi. Attention, parce qu'il y a une année supplémentaire à activer automatiquement s'il fait un nombre de matchs dans l'année. Voilà. Donc c'est pas
c'est pas tant.
C'est pas 2024, ça peut être 2025.
Bah donc ça peut, dans la négociation du côté du PSG, rajouter de l'argent pour l'Olympique Lyonnais.
Pourquoi pas?
Peut-être. C'est marrant, ça rejoint un peu notre débat tout à l'heure sur les clubs intermédiaires. Hein. Mmh. Tu te demandes si Lyon n'est pas en train de devenir un club intermédiaire en Ligue 1.
Tu peux enlever la question. Enlève le point d'interrogation, tu te la mets dans la
tête. C'est pas devenir, hein. C'est pas devenir, on l'est déjà.
Pierrick, Romain. Tu disais que tu avais une offre irrefusable pour Cherki, en tout cas au-delà de sa valeur. Tu l'estimes à combien? Sa valeur à Cherki.
C'est Philippe Rizzoli, lui.
C'est moi, juste le prix.
Tu vas voir.
Très pertinent, mon copain.
Franchement, c'est très compliqué. C'est très compliqué à estimer parce qu'il y a, il a un gros potentiel, mais en soi, il a quand même du mal à confirmer. Franchement, moi, je dis, en dessous de 30 millions, pour moi, je refuse.
C'est-à-dire 29 millions d'euros, tu refuses.
Mais
il y a
J'avoue, c'est dur, mais moi en tant que supporter, je le vois partir moins 25, allez, on va dire. 25,
on fait de la fiction, mais regarde sur cette question, c'est intéressant parce que Pierrick est supporter lyonnais, il est avec nous aujourd'hui et c'est pas du tout pour le critiquer parce que c'est le moule Olympique Lyonnais maintenant, c'est que en fait quand tu as une offre de transfert de la part d'un autre club pour un joueur de l'OL, tu te dis même plus c'est invendable. Tu te dis plus ce mec là, non, on discute pas. Ce mec là, il faut qu'on le garde, c'est un mec important du projet, etc. Mais Cherki ou Malo Gusto.
Tous tes cadres à Lyon se sont brouillés avec lui.
Non.
Je te dis pas que Jérôme Boateng c'est un génie et voilà, il est très discutable sur plein de points, mais il s'embrouille avec lui.
Mais le problème c'est que c'est pas qu'une question de Cherki, c'est qu'aujourd'hui à chaque fois qu'il y a une offre du côté de l'Olympique Lyonnais, maintenant, c'est je le fais partir à temps. J'ai entendu Malo Gusto à Chelsea, c'est normal.
Mais ça existe depuis combien de temps, Sofiane? Ça existe depuis. C'est pas ce soir que t'as découvert ça quand même avec l'Olympique Lyonnais.
Non, mais d'accord.
À l'époque, Ndombélé, Aouar, Lacazette,
pourquoi on en parle beaucoup plus aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, t'es dans une situation
où Benzema et Sien.
Non, mais c'est pas pareil parce qu'aujourd'hui, t'es dans une situation où ta direction sportive ne suit plus.
Mais il a cultivé ça au LAS pendant de nombreuses années.
C'est un problème. C'est ça la question. Aujourd'hui, c'est un problème.
C'est pas le 25 janvier 2023 qu'on le découvre.
Non, mais avant, tu avais la possibilité de retomber régulièrement sur tes pattes. Aujourd'hui, j'essaie juste de réveiller ceux qui suivent ce club et de dire que la situation aujourd'hui, tu peux plus te permettre d'accepter ces choses-là. Et ça rejoint le débat qu'on a eu juste avant avec Lorient et Loïc Ferry, même si ce sont pas les mêmes exemples. Il faut arrêter d'être les serpillères des clubs de Ligue 1 qu'on supporte.
Tu fais quoi avec Cherki? Tu deviens sa serpillère aussi à Cherki? En lui donnant 350 000 ou 400 000 alors qu'il a pas 5 matchs en Ligue 1?
Mais ça, c'est pas encore le cas.
Il peut aller jusqu'à 30 ans
C'est ça.
Attention, je vais partir.
Le problème, c'est que Sofiane, avec Ryan Cherki, dans les deux sens, je te le dis, moi, l'Olympique Lyonnais est piégé. Oui. Sur le cas Cherki.
Je suis d'accord.
Ils sont piégés. Parce que soit tu lui donnes. De toute façon, il lui donne déjà beaucoup trop par rapport à ce qu'il. En pro, par rapport à ce qu'il devait avoir.
Clairement.
On est d'accord là-dessus, Stéphane. On en a déjà parlé. Même au WSC. Et aujourd'hui, si tu prends la suite, c'est-à-dire si tu lâches. C'est un gros camouflet pour les supporters, c'est un gros camouflet pour l'Olympique Lyonnais, comme tu es en train de le décrire. Donc en fait, ils sont piégés parce que, en plus de ça, ils n'ont même pas les personnes compétentes pour remplacer ces joueurs-là. Parce que la direction sportive est catastrophique depuis un bon nombre de mois et d'années. Donc, ils sont, Ils sont dans leur.
C'est pas un piège.
Je vais pas être vulgaire, mais
il paraît qu'on va tout reconstruire à Lyon désormais.
C'est pas un piège, il faut s'en débarrasser pour Lyon, c'est tout. Voilà, c'est pas un piège.
Oui, mais le problème, c'est que
Romain, Walid, c'est pas les Romains, toi tu parles de la mentalité, les infos que tu as sur Ryan Cherki au quotidien.
Pour moi, Ryan Cherki, il faut qu'il parte, parce que si Lyon le prolonge, il y a pas par rapport à ce que tu dis de piège, parce que tu dis il y a une dualité, il y a du bon et du mauvais dans chaque cas de figure, mais pour moi dans le cas de figure où il part au PSG, à ce moment-là le supporter lyonnais va avoir un regret si Cherki se met à flamber. Il ne faut pas l'avoir, parce que Cherki ne brillera pas à Lyon comme il peut briller dans un autre club, parce que à Lyon, contexte, il est chez lui, voilà. Il est en pantoufle et il fait zéro effort, et tous les joueurs, je le répète, qui sont
zéro
passés
t'es sévère.
Ouais, c'est sur la dynamique, il est un peu mieux quand même, il est vraiment
pas grand chose quand même.
Et dès qu'il y a un joueur
qui est passé par un grand club et qui arrive à Lyon, il se frite avec lui.
Pierrick, je te remercie d'avoir fait le 32-16. Nous rappeler l'évolution de ce dossier. Je rappelle, même si on nous dit attention les gars, c'est des rumeurs sur Direct Studio. Non, c'est vrai, Paris a fait une offre à Lyon pour Ryan Cherki. Ça, on peut le réaffirmer. Yacine sera avec nous,
on
également
supporter
du PSG. On ne sait pas, en revanche, je vais être très honnête. Quand on ne sait pas, on le dit.
À l'époque, Juninho, il le disait lui-même et il ne le contredira pas. S'il y avait une offre pour Cherki, il était chaud pour vendre.
C'est vrai, je m'en rappelle. Yacine arrive également, supporter du PSG au 32-16. Le handball également, quart de finale du mondial France-Allemagne. Arnaud Valadon.
10 minutes avant la mi-temps, on avait 4 buts de retard, on est revenu à égalité, 11 partout, on est de nouveau derrière avec une contre-attaque allemande, 12-11, les Français brouillons, mais ça va quand même beaucoup mieux, et on égalise à l'instant avec Tournat, 12 partout, 10 minutes encore à jouer en première mi-temps.
Marcus Rashford confirme qu'il est en forme, United mène 1-0 sur la pelouse Nottingham Forest, Rashford à la 6ème minute de jeu, je parle d'une demi-finale aller de Coupe de la Ligue, le Barça s'est lancé également face à la Real Sociedad, 0-0, quart de finale de la Coupe du Roi. Reste avec nous, la suite des générations after dans un instant, on vous attend, supporter parisien. Est-ce que Cherki, c'est une bonne nouvelle, une bonne idée ou pas? À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Sofiane Zouaoui, Romain Canutti et Walid Acherchour. 13 partout, quart de finale mondiale de handball entre la France et l'Allemagne. On y retourne tout à l'heure. Messieurs, alors, on parle de Ryan Cherki. On en a parlé côté lyonnais, côté Paris maintenant. Est-ce une bonne idée pour le Paris Saint-Germain? On en profitera également pour parler du travail de Luis Campos. Tiens, on l'a pas beaucoup fait depuis quelques semaines. Ses choix de recrutement depuis son arrivée l'été dernier au Paris Saint-Germain. D'abord, j'accueille Yacine au 32-16. Salut Yacine.
Bonsoir messieurs.
Salut Yacine. Bonsoir Yacine. Yacine, habitué, je crois, de 32-16, cher Yacine.
Oui.
Supporter du PSG. Vrai. Alors, quand tu as appris cette information, la nouvelle aujourd'hui, le PSG a fait une offre pour Ryan Cherki à l'Olympique Lyonnais. Comment as-tu réagi?
Pour moi, ça ne me surprend pas. Au début, j'ai cru une blague. Puis en fin de compte, je me suis dit au final, c'est peut-être pas si surprenant. Ça me surprend pas du bonhomme. Luis Campos, puisqu'il pense que Paris, c'est Lille, c'est Nice, c'est Monaco. Oui. Donc, oui. C'est le bonhomme. Mais bon, pour moi, tout ça, entre guillemets, c'est vraiment du très, très court terme, puisque je pense que Campos finira pas l'année. Parce qu'il y a un truc que vous avez pas abordé, c'est que pour l'instant, tous les dossiers, que ce soit arrivé ou départ, il faut pas oublier qu'au PSG, il n'y a pas de directeur général adjoint. Ça, vous l'avez jamais mentionné. Demain, on sait qu'ils vont prendre quelqu'un de l'extérieur. Demain, il y a quelqu'un comme Gazidis qui arrive. Campos, ça saute. Ça saute. Et tous les joueurs qu'il a pris, la plupart, comme Gazidis, son mot d'ordre, c'est sécurité financière avant tout. Les salaires à 40 millions et tout, avec lui, c'est terminé. Moi, je vois mal Gazidis arriver et puis dire, ah bah tiens, Cherki, oui, 5 millions, très bien, très bien. Messi, 40, ouais, très bien, excellent. Non, ça c'est terminé. Donc pour moi, en fait, tout ça... C'est bien, ça met un petit peu ça anime un peu le mercato entre guillemets, mais c'est pas des joueurs qui vont s'inscrire dans la durée. Je pense que début 2023, il y en a pas mal qui vont aller dans le carrosse. Donc voilà, Campos, il s'est fait un petit kiff, puis il a peut-être pris une petite com. Puis voilà, comme de toute façon en fin février, la saison du PSG s'arrête. Moi, je suis pas trop inquiet.
Bon, tu es très pessimiste. Non, un brin fataliste, mon cher Yacine.
Mais il a le droit.
Il a tous les droits, Yacine, évidemment.
Non, parce que en début de débat, tu as dit, vous pouvez nous appeler au 32-16 si vous trouvez que Cherki c'est une mauvaise idée, si vous trouvez
que c'est une bonne idée.
Oui. Mais s'il y a un supporter parisien qui appelle pour dire qu'il est heureux qu'il y ait Ryan Cherki, tu vas y aller c'est de possible. Ton maillot et je paye le flocage de mes propres
deniers. Tu l'as dit tout à l'heure. Peut-être qu'il ne s'épanouit pas dans le contexte lyonnais, chez lui pourtant, il peut s'épanouir ailleurs. Et pourquoi pas au PSG? Moi, je pose la question de manière un peu naïve. Ça vous donne pas trop de les gars.
Je vais voir Yacine qui supporte le PSG. Je vais voir ce qu'il en pense. Mais dans la configuration actuelle du PSG, avec trois joueurs offensifs qui veulent jouer toutes les minutes, tout le temps, qui regardent quel est celui qui sort en premier, je me dis que ce qu'il faut, c'est comme au Bayern Munich, ce qu'ils ont trouvé. Ils ont un attaquant qui est content de prendre les minutes qu'on lui donne et qui est heureux d'être là, qui s'appelle Choupo-Moting. Et en gros, je dis pas qu'il faut prendre Choupo-Moting, mais il faut un Choupo-Moting au PSG, un profil.
Quand Cherki aura 10% du professionnalisme de Choupo-Moting, on en rediscutera. En attendant, c'est pas le cas. C'est un joueur qui va vouloir, qui va kiffer jouer avec les autres, parce qu'en fait, tu regardes le jeu du PSG, en fait, ça joue au file, hein, quand tu es dans les derniers mètres.
Avec Cherki, vaut mieux Galtier laisse la porte de son vestiaire ouverte.
Il va rentrer toutes les deux jours. Apparemment, ils veulent jouer en 4-4-2. Galtier, de toute façon, c'est pareil, hein, dans la charrette en 2023. Lui, c'est pareil, hein, c'est dans le lot, tout ça. Mais.
Tu coupes beaucoup de têtes, hein, Yacine, ce soir. Au PSG.
C'est pas, comme je vous dis, le problème, c'est que vous oubliez un point, c'est qu'il n'y a pas de DG. Donc en fait, on prend la saison du PSG en cours. Il y a des passes qui ne sont pas encore, ils sont pas tous pris. C'est un PSG qui mute. Il y a un nouvel organigramme. Il est pas complet. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi personnellement.
Perdu, Yacine.
Mais moi, il y a un truc que j'arrive pas à saisir et à comprendre parce que tu as parlé de la proximité des deux familles entre Kylian Mbappé et Ryan Cherki.
Entre guillemets, si Cherki vient à Paris, excuse-moi Walid, il peut avoir son pote Ekitike devant. Il peut avoir son pote Cherki sur un côté également. Il aura son trio, quoi.
Ouais, ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que Kylian Mbappé, que je respecte énormément, notamment par sa qualité de joueur et son professionnalisme, quand on voit, et que ce soit Kylian Mbappé ou son entourage, hein, parce que je ne sais pas si c'est forcément que Kylian Mbappé, mais quand on voit les pistes, ce qu'on entend de joueurs qui arriveraient sous l'aval ou de joueurs qui sont proches d'eux, je suis quand même
son métier.
Excusez-moi de l'expression sur les fesses, parce que ça va vraiment pas en adéquation avec ce qu'est Kylian Mbappé. Quand on parle de Ryan Cherki, quand on parle même de Ekitike, si c'est avec ça que le Paris Saint-Germain,
que
Kylian Mbappé veut aller gagner une Ligue des Champions, on a critiqué la gestion du Paris Saint-Germain, anti-star, pas de bling-bling, etc. Faut couper la tête à Neymar, faut couper la tête à Messi. Si c'est pour ramener un joueur comme Ryan Cherki, qui a aucune référence aujourd'hui, qui vient de s'imposer à Lyon depuis 5-6 matchs, qui peut jouer que dans un système de jeu, qu'à un poste, au poste de numéro 10, je suis moi, vraiment,
après,
vraiment...
Après là, vous faites
Vraiment, juste pour terminer, Sofiane, bouche bée, vraiment. Parce que je suis désolé, mais on parle du Paris Saint-Germain. Et c'est pas pour faire injure à Cherki. Peut-être que Cherki, sur les 10 prochaines années, ce sera un monstre et ce sera l'un des meilleurs joueurs du monde. J'ai beaucoup de mal à le croire aujourd'hui, mais peut-être que ça le deviendra. Mais voir.
C'est là-dessus que le PSG.
Que Luis Campos et que c'est commandité, etc. Ou en tout cas, il y a l'aval de la famille Mbappé qui a une proximité.
Alors, attention, ça, non, c'est non, pas
mais,
ce qu'on a dit.
Non, enfin, c'est pas ce qu'on a dit, mais en tout cas, on le.
Tu peux le subodorer, l'imaginer.
Exactement, on peut l'imaginer. On connaît, c'est très bien.
C'est Luis Campos qui aime beaucoup Cherki depuis longtemps déjà.
Enfin, Luis Campos, il aime beaucoup Kylian Mbappé. Kylian Mbappé aime beaucoup Luis Campos. On va pas faire des dessins à tout le monde quand même, Nico Jamin. Arrêtons d'être dans l'hypocrisie constante.
Non, mais après qu'il y ait
des éléments.
Non, mais au-delà de Mbappé, que le PSG s'intéresse à un joueur comme Ryan Cherki, aujourd'hui, actuellement, qui n'a pas encore fait une saison pleine en Ligue 1 dans un club comme l'Olympique Lyonnais, mais de qui se moque-t-on? On a quand même, dans la hiérarchie des recrues, on a quand même vraiment, à un moment donné, baissé du côté du PSG.
Non, mais que l'idée soit bizarre, etc. D'ailleurs, sur les trois parties, hein, OL, Cherki et PSG, à la limite, je peux t'entendre. Mais déjà, là, tu mixes trop de trucs. C'est-à-dire que s'il y a, bien sûr, l'appui, l'aval, je sais pas, ou la validation, moi, je pense, d'Mbappé ou de son entourage, c'est que déjà, moi, la façon dont je lis cette validation, c'est plus une validation de communication. C'est-à-dire, tiens, Mbappé, lui, valide ça, c'est un bon joueur, donc on va faire passer la pilule comme ça, à la limite. Mais moi, en revanche, que Campos cible Cherki, moi, je suis pas du tout surpris. Je suis pas du tout serpent. C'est pas parce que ça rentre dans l'effectif du PSG et que ça peut être incohérent par rapport à ce qu'on attend du PSG. PSG, ils ont pris Campos. Campos, c'est exactement le style de joueur qu'ils visent. C'est exactement le style de joueur qu'ils visent.
Tu nous apprends quoi, Sofiane?
Bah, tu me dis que c'est incohérent. Moi, je trouve pas ça incohérent.
C'est incohérent par rapport à ce qu'est le Paris Saint-Germain.
Alors, ne prends pas Campos.
Ne prends pas Campos.
Voilà.
Campos, à un moment donné.
C'est la question, les gars.
Il a un travail. Campos, il a un travail. Moi, j'ai un travail. Demain, quand je viens dans une boîte, il y a un ADN dans cette boîte. On me demande de faire, encore une fois, ce que la boîte veut. Ce que la boîte
on demande. A du mal parfois avec toi.
Mais on l'a fait avec
non, mais est-ce que les objectifs de la boîte, que la boîte demande?
Oui, d'accord.
Tu travailles pas au Paris Saint-Germain, comme à Lille, comme à Monaco. On est d'accord là-dessus. Oui. Si Campos, ou en tout cas, si les dirigeants n'ont pas fait comprendre à Campos qu'il n'était pas à Lille ou à Monaco, c'est quand même problématique. Que tu me dises, Sofiane Zouaoui, que c'est pas surprenant. Mais on s'en fout. Là, on parle du Paris Saint-Germain. L'info Cherki. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait de l'info Cherki au PSG par rapport aux ambitions du Paris Saint-Germain? D'accord. Est-ce que c'est cohérent ou pas cohérent par rapport au PSG? Campos ou pas Campos? On s'en fout, à la limite.
Bah, non, c'est quand même important.
Non,
c'est
parce que Campos doit se.
Campos, il a fait quoi d'un Bernardo Silva? Aujourd'hui, tu parles de Bernardo Silva comme si c'était, c'est un joueur extraordinaire.
Le Campos, il l'a pris, il était où à Bernardo Silva? On parle de défenseurs centraux, on parle de milieu de terrain, on est en train de critiquer tous les secteurs du PSG et l'info qui sort, la recrue qui sort, c'est Ryan Cherki au Paris Saint-Germain. Mais faut qu'on se réveille en fait, il est 21h27, faut vraiment qu'on se réveille.
C'est différent sur le poste, on parle du. Mais là, puisqu'on parle de la rumeur en elle-même, je trouve que, après on peut discuter si c'est cohérent, c'est pas cohérent, etc., du niveau du joueur, mais c'est exactement le type de profil que Campos cherche, d'accord, tout simplement.
Au PSG.
Voilà.
Au PSG. Ouais, bah, écoute, c'est super.
T'as qu'à prendre un autre gars.
D'accord. Par contre, ce qu'il a fait, Soler, on en a parlé. Fabien Ruiz, on en a parlé.
Bon, la vraie question, Walid, je te coupe la parole, c'est effectivement, est-ce que Campos est bel et bien dimensionné pour ce Paris Saint-Germain-là?
Bah non.
C'est un homme. Oui, pour l'instant. Comment tu juges, toi, Romain, le bilan pour l'instant, Mercato? On peut citer les joueurs qu'il a attirés au PSG. Soler, on est d'accord, pour l'instant?
Mais en fait, Nico,
on va attendre un petit peu encore.
Si tu veux.
Fabien Ruiz, bon début, décevant pour le moment.
C'est bon.
Moukielé, pourquoi?
Je crois qu'il n'y a que Daniel Riolo qui a vu.
Vitinha, on attend de voir et de revoir. Renato Sanchez, c'est raté pour l'instant.
Ça, voilà. Là, le problème, moi j'ai regardé parce que là.
Excuse-moi, c'est la mi-temps au handball. Coupe du monde, championnat du monde, quart de finale. France-Allemagne, Arnaud Valadon.
Et sur ce score d'égalité, match très accroché, on égalise avec Melvin Richardson au buzzer. 16 partout entre la France et l'Allemagne.
C'est chaud, plus chaud que prévu. Romain.
Sur Luis Campos, au début, moi j'ai regardé, il n'y a pas que les arrivées, il y a aussi les départs. Et je trouve que dans la structure.
Les départs, c'est un terreau.
La structure qu'il a voulu donner à l'équipe, je trouve qu'il y avait une idée pas mal, c'était d'arriver à se débarrasser de tous ces milieux de terrain qui étaient au PSG et qui étaient plus là pour faire le nombre qu'autre chose. Idrissa Gueye, Draxler, Rafinha, Wijnaldum, Paredes et Herrera. Voilà. Je trouvais que c'était pas mal parce que je trouvais, et dans la droite lignée de ce que disait Walid, qu'ils n'avaient pas le niveau PSG.
Il y a beaucoup de prêts là-dedans, tu sais aussi. Hein.
Au moins, ils ne sont pas dans le vestiaire. Et je trouvais que c'était pas mal, et c'était, on va dire, osé, d'arriver à se séparer de tout ça et dire on va refaire tout ce secteur de jeu. Le problème, c'est que quand tu regardes, et tu les as cités, les Fabian Ruiz, les Soler, les Renato Sanchez, Vitinha en ce moment, mais je pense que Vitinha, il peut peut-être être à un meilleur niveau, bah, tu te dis que c'est pas. Si tu compares les deux. C'est pas transfiguré, quoi. Et c'est le problème, et c'est ce que dit Walid aussi, c'est que tu dois être dans une certaine exigence quand il y a un club qui aspire à concurrencer le Real, le Barça, le Bayern, et ils en sont très loin, et ils sont pour faire le nombre. Enfin, je veux dire,
si tu fais le 11 du PSG romain, probable face au Bayern, au final, t'auras qu'un seul joueur de Campos, probablement dans le 11, qui est Vitinha. Le reste, ce sera pas lui.
Alors
ce sera pas lui.
Mais le problème, c'est qu'il y avait des problèmes latents la saison dernière.
Il devait. Cherki peut intégrer ce 11?
Non. Bien sûr que non.
Donc, à quoi ça sert?
Parce qu'il a 19 ans et que peut-être dans 2 ans, il sera titulaire au Paris Saint-Germain.
Dans 2 ans.
Quand Neymar sera parti, comme il sera plus là.
Comme Ekitike, peut-être dans 3 ans et peut-être dans 2 ans.
Laisse le PSG investir sur la durée aussi, peut-être.
On n'est pas, encore une fois, dans un club qui doit faire de la spéculation constante. Je suis désolé
l'un n'empêche pas l'autre. Hein.
D'accord, oui, mais il faut saupoudrer. Mais je suis désolé. À un moment donné, quand on parle, et je reviens à mon débat de départ sur Mbappé, la grande révolution, Luis Campos, Galtier, tout ce que ça va apporter, quand tu prends le chemin des recrues, parce que moi j'entends des recrues, je vais pas tous les citer, mais ce qui va arriver prochainement,
On sera surpris.
Allez, en fait, Wally,
on sera surpris juste, du virage du PSG.
Juste, Wally, tu me dis si tu es d'accord avec moi. Si jamais le PSG, là, mercato d'hiver, réglait un problème en défense avec un gros défenseur central, réglait son problème au milieu de terrain avec un profil plus travailleur, ouais. Et à la fin, on te dit, bah, bonus, il y a Ryan Cherki qui vient.
À la limite, à la limite.
Tu te dis pourquoi pas. Mais là, limite, vu qu'il n'y a que ça, ça te met en
voilà.
Et encore.
Pour le mercato.
Parce que même pour Ryan Cherki, pour moi, je resterai
parisien.
Pour une éclosion, je ne vais pas aller au Paris Saint-Germain.
Merci Yacine d'avoir fait le 32-16. À très bientôt sur RMC.
À part pour les photos,
bonne soirée à toi, mon cher Yacine. Indiscipliné ce soir.
Tu parles
sur tout le monde.
T'as vu, je suis sympa, moi.
Sur Romain, sur Sofiane et même sur moi.
Excusez-moi, professeur.
Mais tu dis ça, mais tu vas recommencer dans 5 minutes.
Non, j'arrête.
On dirait Daniel avec ses crocodiles.
Incroyable.
J'arrête.
Bien sûr. Tu vas signer un papier bientôt. Hein. Je vous rappelle également que ce soir, le Barça joue 0-0 face à la Real Sociedad. Quart de finale de la Coupe du Roi. United mène toujours 1-0 sur la pelouse. 1-0 sur la pelouse de Nottingham Forest en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue. Paulo Breitner sera là aussi pour la soirée de Bundesliga. Le Borussia 2-1 à Mayence. Un partout entre le Werder Bremen et l'Union Berlin. 1-0 pour le Bayer Leverkusen face à Borum. But de Tapsoba pour le Bayern. Colomoni a marqué.
Oui, Franck
Colomoni a marqué avec l'Eintracht.
Ça joue le tir. Enfin,
meilleur passeur de Bundesliga, marqueur ce soir à Francfort, bien sûr. Top 4 de la boulie.
Colomoni est un joueur que Nantes n'a pas réussi à valoriser, contrairement à Terem Moffi. Avec la somme d'argent, je pense qu'ils auraient pu travailler derrière.
Ah, ils ont essayé, hein. Ils sont pris un peu tard à Nantes. Ah, la famille Kita s'est pris tard, ils ont voulu prolonger, il n'a pas voulu. Ouais. Voilà.
Quand tu vois combien il va partir, Colomoni.
À Kita, tu prends le haut niveau, là, quand même.
Ouais, bah voilà. Ouais.
Le père ou le fils?
Oh, je veux pas juger le fils, je connais moins bien.
D'ailleurs, le mercato nantais, on en parlera peut-être tout à l'heure, pas si mal. Depuis qu'on a décidé de moins travailler avec un agent belge.
Ah, ça y est, ils ont mis de côté?
Un peu, ouais. Mm-hmm. Allez, restez avec nous, Génération After, la suite dans un instant. Vous écoutez RMC 21h32.
RMC 20h22h, Génération After.
Nicolas
Jamin. Avec Sofiane Zouaoui, Winamax FC, Romain Canuti et Walid Acharchour. Génération After, 21h35 à 22h, Gilbert. Daniel et Flo Gautreau prendront le relais jusqu'à minuit.
Et Nico, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réactions. Si tu me permets, sur Cherki, notamment au PSG. Il y a aussi le paramètre jeune au Paris Saint-Germain, qui était notamment demandé par Nasser El Khelaifi en début de saison. Et le message que t'envoies aux jeunes du PSG, notamment dans son secteur, si tu prends un mec comme Ryan Cherki, est pas positif.
Bon, l'argument est bien, mais c'est quand même une intro d'influenceuse. De démarrer par.
Ou d'influenceur. Pourquoi féminiser le terme?
Il y a beaucoup de réactions.
Il est fou, lui.
Il y a beaucoup de réactions.
Je viens d'ouvrir mon Twitter.
On m'a dit que vous êtes nombreuses à me demander. Ouais, ça va.
Ah oui, d'accord.
Pas de ça avec nous, Walid Acharchour.
Mais Romain, tu n'es pas obligé de féminiser les.
Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de.
C'est pas nécessaire.
C'est pas un machisme.
Dans un instant, l'avis de Sofiane, rapidement. Vous ne me coupez pas la parole. Quelques infos mercato. Toko Ekambi s'est fait à Rennes. Info Fabrice Hawkins d'RMC Sport. Accord. Près de 6 mois payant de 1,5 million d'euros. Discussion en cours pour un départ de Romain Fèvre de Lyon vers Lorient. Demande de prêt alors que Lyon veut un transfert. Je vous donne également quoi? Tariq Lamptey. L'OL s'intéresse à lui au cas où Malo Gusto finirait par rejoindre Chelsea, international ghanéen, arrière droit, 22 ans.
Très bien coté à une époque à Brighton. Petit trou après, mais bon joueur.
Contrat jusqu'en 2025 avec Brighton. D'autres clubs européens le suivent. Sachez également qu'à Nantes, on annonce aujourd'hui une recrue, un défenseur central de 24 ans du Benfica. Joao Victor, acheté pour 10 millions d'euros par Lisbonne l'été dernier, arrivé des Corinthians, barré à Benfica par le duo Otamendi et Antonio Silva, pas mal, plus Florent Mollet qui est arrivé, plus Jawed Adjam du PFC. Et à Auxerre, on a un gardien remplaçant.
Intéressant, Jawed Adjam.
Ouais. Un gardien qui donc vient succéder à Benoît Costil, c'est l'international roumain Ionut Radu. De sélection, 25 ans, il arrive de Serie A, a été prêté par l'Inter Milan à Cremonese.
Ouais, j'aime bien ces recrutements Football Manager, moi, sur des mecs un peu obscurs. Ouais, j'aime bien.
J'avais un joueur qui s'appelait Florine Petrou, Football Manager.
C'est pas mal.
T'étais Football Manager?
Stanchou aussi.
Nico?
Stanchou, bien sûr.
Oui, mais j'ai pas le temps d'en parler, c'était un mauvais souvenir. J'ai foiré ma licence d'histoire, j'ai dû la repasser après.
Ok.
La vie de Sofiane Zouaoui, la gestion du Capitana, symbole du bazar au PSG.
Est-ce que pour toi, à ce moment-là, il est ballon d'orisable? Entre guillemets, ballon d'orisable, mais il devient ballon d'orisable. Si on parle d'un objectif ballon d'orisable, il devient ballon d'orisable.
J'en peux plus de ce truc-là.
Mais ça va te suivre.
Si Polo veut changer.
Tu l'as dit 8 fois en 30 secondes.
C'est vraiment horrible.
C'est à tes débuts dans la génération.
À l'oreille, tout à fait.
Nous t'écoutons, Sofiane.
Écoute, je trouve que le débat du Capitana, qui n'est pas un débat qui m'intéresse de manière générale, je le trouve très intéressant.
On est d'accord.
très intéressant.
Et du vice-capitana en plus.
Et du vice-capitana.
Mais pas le capitana en fait.
Elle est un peu des deux parce que je vais englober un peu le tout. Je le trouve très intéressant au final au Paris Saint-Germain et révélateur de beaucoup de dilemmes sportifs et d'incertitudes sportives. Je vais parler de ce qui s'est passé hier entre Kimpembe et Galtier notamment. Mais déjà, si on peut regarder le panorama des capitaines au Paris Saint-Germain, en gros c'est Marquinhos donc qui est le capitaine numéro 1 du club. Et puis en vice-capitaine, incroyable, je ne savais pas. T'as quatre capitaines sur la même ligne. T'as Ramos, tu as Kylian Mbappé, Verratti et Kimpembe. Déjà, on va commencer sur le fait qu'il y ait quatre mecs quand même sur la même ligne, ce que je trouve très surprenant en vice-capitaine. C'est quand même la preuve que tu fais un choix sans en faire un et que c'est plus une hiérarchie de façade. Donc ça me fait un peu rire par rapport à ce que met en place le Paris Saint-Germain sur ce secteur-là, qui pour moi était un secteur facile à gérer. Au final, même sur le sujet du capitana, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pense. Après, sur les hommes. Les hommes, je trouve aussi très intéressant, c'est qu'en capitaine, bien sûr, on a Marquinhos, on a l'habitude. Déjà, sportivement, c'est quand même un joueur qui est en grande difficulté depuis plusieurs mois.
Ah bon ?
Et ça pose quand même des questions sur son statut et sur son impact sur le terrain. Quand t'es autant en difficulté et que tes coéquipiers le savent, parce que le foot, c'est ça aussi, tes coéquipiers le savent, est-ce que tu peux avoir un impact sportif sur le terrain ? Ensuite, t'as les quatre mecs qui suivent à la même ligne, Kimpembe, Verratti, Ramos, Mbappé. Sur ces quatre-là, t'as trois mecs qui sont soit en difficulté sportive, soit en difficulté de blessure. Je parle pour les blessures, on lui souhaite un bon rétablissement, Kimpembe. Et sur les blessures, Verratti, même s'il est retourné, il est revenu à l'entraînement aujourd'hui. Je rajoute notre ami Verratti, qui est Ramos. Ramos qui est en difficulté, lui pour le coup sportif, soit dans un système à 3 ou dans un système à 4. Donc ça met en avant ce côté du capitana. Ça met en avant en fait que ces 5 joueurs, sur les 5 joueurs, t'en as quand même 4 qui sont dans une incertitude sportive et c'est important quand ce sont des relais quand même du coach Galtier. T'as le cas Mbappé qui est différent des autres, où tu te dis ça pourrait être la solution au final. Mbappé, tu le mets capitaine, c'est un mec qui joue tout le temps, qui a une régularité lui pour le coup sportif, qui est infaillible, qui a un poids aussi dans le vestiaire. Mais tu sais très bien qu'en mettant Mbappé capitaine, tu tues définitivement Marquinhos qui est déjà au fond du trou et tu le tues définitivement alors que c'était le capitaine attitré. Donc c'est pas si simple que ça au final la gestion du capitana. Donc il y a cette réalité sportive. Maintenant, il y a la réalité aussi des égos. Et je trouve que ça a été très bien mis en avant hier par l'épisode entre Galtier et Kimpembe. Je rappelle qu'en gros, Galtier dit en conférence de presse, moi, mon vice-capitaine, on a décidé ça en début de saison, c'est Mbappé. Sachez déjà que c'est une boulette de l'avoir dit, puisque même en interne, ils n'ont pas compris pourquoi il l'avait dit. Et aujourd'hui, il s'est expliqué avec Kimpembe à ce niveau-là.
Selon nos camarades de l'équipe, ouais.
Ouais. Mais il y a eu la sortie de Kimpembe sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on peut lier ça au taf de Campos, parce qu'il est aussi responsable de ces choses-là. Il a fait cette semaine et les dernières semaines, il a fait des entretiens individuels pour remettre les joueurs dans l'implication, etc. Lui, c'est aussi son job. Et voir un joueur s'épancher comme ça sur les réseaux sociaux, même si je peux totalement comprendre Kimpembe, c'est quand même la preuve qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Et ça met en avant aussi une dernière chose, c'est que dans cette histoire, Mbappé, c'est quand même le mec que tu brosses encore une fois, et c'est plutôt logique d'ailleurs, mais ça peut aussi poser des problèmes par rapport même à ses potes, puisque Kimpembe est un ami. Donc je trouve que la gestion du capitana, aussi basique que ça puisse paraître, au final elle révèle beaucoup de problèmes et d'incertitudes sportives et d'égo au Paris Saint-Germain.
Un sujet anecdotique mais qui en dit peut-être long sur la gestion des égos et le management au PSG. Je vais accueillir Christopher dans un instant, vas-y Orm.
Non mais ça pourrait être pire, parce que Messi pourrait dire tiens et moi je suis pas concerné. Et
là, j'aurais voulu ajouter Messi.
Oh, Messi, si Messi, si Messi, il se fait une petite story pareil avec la piscine en fond et le placement produit
qui fume.
D'un vêtement de ski géolocalisé, s'il dit ah tiens, et moi le capitana, je suis pas dans les
discussions. Non,
non, mais s'il s'amuse, c'est juste pour la vanne.
Romain, là, non.
Pour la vanne, s'il pour fait ça. T'imagines un peu comme tout le monde est en train
de. Oui, mais on n'a pas le temps pour la vanne. On n'imagine pas. Non,
depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, je pense, même avant.
Mais juste
pour revenir très rapidement sur ce que
tu disais. Je sais pas qu'on a
écrit
Christopher d'abord.
C'est en une phrase. Il faut pas oublier que, pour mettre en lumière l'incohérence de Galtier dans sa com, que depuis le début de saison, il y a eu deux matchs où Marquinhos a été sur le banc et que Kimpembe a joué avec Kylian Mbappé, et les deux fois contre Troyes et contre Brest,
Kimpembe avait eu le brassard. Et derrière, il te dit que ça avait été convenu bien avant dans la saison. Donc,
peut-être qu'il nous balade un petit peu,
voilà,
c'est en train de dire.
Voilà, il nous balade pas, là. On est quand même.
Attitude de capitaine, ouais, d'ailleurs, Kimpembe, ouais, contre Brest. Hein, vraiment un joueur. C'était bien. Hein, c'était. Il a raison de demander le brassard sur Instagram.
C'est reparti, au handball, quart de finale du mondial. France-Allemagne, Arnaud Valadon.
30 minutes pour soi. Non pas rentrer à Paris parce qu'il y aura encore des matchs de classement inutiles s'ils perdent les Français, mais surtout pour aller dans le dernier carré de ce mondial. 16 partout. À noter que Nicolas Karabatic diminué au pied a joué les 20 premières minutes et là on le repose encore dans cette partie. 16 partout, pas de but encore inscrit messieurs dans cette deuxième mi-temps, reparti depuis 30 secondes.
Bonsoir Christopher.
Bonsoir les gars.
Heureux de t'accueillir dans Génération After sur RMC. Nous t'écoutons Christopher.
Bah écoutez, je vais réagir, je crois que c'est Wally qui vient juste de parler en disant que la com de Galtier, il nous balade un petit peu. Moi je pense pas qu'il nous balade du tout, pas du tout. Je pense qu'il a été déçu de la sortie de Kimpembe en disant qu'il a mis un peu la pression sur le club, en disant qu'il se voyait bien partir dans un autre championnat et pour sûrement ne pas prolonger au PSG. Et je pense qu'ils ont pris la décision au club. Alors, ils auraient peut-être dû le mettre au courant, je suis d'accord. Mais je pense que la sortie de Galtier, elle est complètement, elle n'est pas anodine. Il a vraiment fait exprès en montrant à Kimpembe qu'il n'était plus vice-capitaine de cette équipe après la sortie médiatique qu'il a eue, c'est tout. Je pense pas.
Oui,
que
mais il raconte autre chose. Il raconte autre chose là, Christopher. Il dit que ça a été décidé depuis le début de saison et que Kimpembe n'était pas au courant. Il ne l'a jamais entendu de la part de Galtier. Et s'il y a une explication aujourd'hui, c'est bien que Galtier a voulu nous balader, mais que Kimpembe a pris son compte Instagram pour communiquer.
Où je suis d'accord avec toi, c'est sur le fait qu'il a certainement pas pris cette décision au début de saison. Il les a peut-être tous mis au même niveau, qui pour moi est une erreur, parce que quelqu'un comme Ramos, par exemple, c'est un leader naturel, tu n'as pas besoin de le mettre vice-capitaine de l'équipe. Voilà. Après, l'année dernière, il a pas joué, cette année, il joue, c'est un leader naturel, donc t'as pas besoin de le mettre dans le vice-capitanat. Par contre, pour Kimpembe, après, normalement, il me semble que pour être même vice-capitaine, il faut que tes prestations soient bonnes. Il faut que tu joues. Or là, Kimpembe, ses prestations, ça fait un moment qu'elles sont pas bonnes. Et maintenant, il joue plus. Alors, il y a une erreur de Galtier. Et là, ok, je suis d'accord avec toi. Il nous balade en disant que depuis le début de la saison, ça a été dit que, alors que c'est certainement pas vrai. Mais je pense pas que sa sortie, il ait voulu se couvrir ou quoi que ce soit. Je pense qu'il a vraiment fait exprès et qu'il a vraiment voulu faire passer un message. Et je pense que ça peut être même venu de la part aussi de Campos en disant maintenant. Les joueurs qui ne sont pas concernés ou qui voient leur avenir ailleurs ou etc. Et ben il y a pas de souci. Et ben le vice-capitana dehors.
Ce serait tiré par les cheveux. Ouais,
j'ajoute que là, le confrère de l'équipe effectivement évoque une rencontre aujourd'hui. Christophe Galtier, Presnel Kimpembe. Et selon nos camarades, Galtier n'aurait pas totalement assumé sa sortie, hein, puisqu'il dit.
Je pense que c'est une boulette, moi.
Il dit oui, je pense aussi. Il dit qu'il a pas voulu dire que Mbappé était numéro 2, mais qu'ils étaient bien 4 sur la même ligne, qui se partageront le morceau d'étoffe.
Il s'est enflammé.
Le brassard de capitaine.
Il s'est enflammé. À vouloir brosser un peu tout le monde, tu finis par.
Et il s'est fait tuer par le message de Kimpembe.
Par contre, Kimpembe ne doit pas sortir comme ça, oui, même si je peux l'entendre.
Bah c'est pour ça, il ne pensait pas que Kimpembe allait communiquer de cette manière. Mais bon, avec le PSG, maintenant, Instagram est un outil de communication. Après le pivot gang.
Voilà pour l'avis de Sofiane. Les directs, égalisation de Fribourg face à l'Eintracht Francfort, hein, Colomoini pour l'Eintracht. Ginter, égalisation pour Fribourg. Le Bayern mène toujours 1-0 face à Bochum. Et puis l'Union de Berlin, cher à Paulo Breitner qui sera là tout à l'heure, mène 2-1. Sur la pelouse du Werder grâce à Aberer.
Le Bayern joue Francfort ce week-end.
Ah bon, tu m'apprends.
Ouais, le Bayern joue
magnifique.
Francfort ce week-end.
Il fera un très bel after ce week-end avec Paulo Breitner. Sachez également que le Barça, toujours 0-0 face à la Real Sociedad après 45 minutes de jeu, quart de finale de la Coupe du Roi à 22h au Osasuna.
La Sociedad a pris un rouge.
Séville. Et United mène 1-0 sur la pelouse de Nottingham Forest, demi-finale aller de Coupe 2-0 à l'instant pour United. Verhorst, messieurs.
Parce que là, on a mis. Je pense que les gars en parleront après avec Gilbert. Mais on a dressé un panorama un peu négatif du Paris Saint-Germain. Faut pas croire non plus que du côté du Bayern tout va bien.
Loin. Exactement. Ce sera un autre sujet qu'on traitera dans les prochains jours à l'approche de ce huitième de finale le 14 février. Dans un instant, la chronique de Jimmy arrive dans Génération After RMC 21h47.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After, RMC, 21h49, Romain Canutti, Walid Acharchour, Sofiane Zouaoui et nous accueillons Jimmy Brown pour la chronique de Jimmy.
J'ai pas envie de parler, j'ai envie de les laisser faire le solo comme ça, c'est magnifique.
Walid, la réincarnation de Lou Reed, on l'a prise ce soir, magnifique.
Quel talent, quel talent.
Bonsoir Jimmy.
C'est qui Lou Reed?
Salut monsieur.
C'est qui Lou Reed? Lou Reed, tu connais
pas. Ah, Lou Reed.
Lou Reed.
Il a joué à Southampton, ouais. Laisse tomber.
Ah, ouais, c'est, c'est un mieux terrain de Brighton, c'est ça.
Bonsoir Jimmy.
Bonsoir messieurs. Oui, habituellement je viens pour un moment léger, essayer de vous faire un peu sourire, fin d'émission, ah, oui, tout ça, mais là l'heure est grave. L'heure est grave. J'essaie de prendre un ton aussi grave que. C'est Christophe Galtier avec les silences comme ça en conférence de presse. Christophe Galtier, justement, le jour de sa conférence de presse de présentation, c'était le 5 juillet dernier, souvenez-vous.
Il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe. Si il y a malheureusement des joueurs qui sortent de ce cadre-là, à partir du moment où ils sortiront de ce cadre-là, ils seront écartés. De quelle manière ? Ça, ça restera évidemment toujours en interne. Mais je, pour répondre très précisément... Pas un joueur sera au-dessus de ce que doit être le groupe et la position du groupe.
Là, ça calme.
À l'humour, on sait y faire à Marseille.
Il y en a pas un qui a bronché, ils étaient tous en panique dans le vestiaire.
La première conf était dingue quand même.
Et qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu, élu à l'époque. Il y avait même Brandao qui t'expliquait qu'il savait gérer les égos, etc. Il y avait plein d'interviews d'anciens joueurs. Évidemment, ouais. Galtier, il a su gérer toujours des très gros égos dans les vestiaires, etc.
Ouais. C'était le tampon.
Johan Molo.
Exactement, entre autres.
Jérémy Clément.
Et donc moi, quelle ne fut pas ma surprise hier en voyant ça. Lionel Messi, les gars, en séjour prolongé à Crans-Montana. Avec toute la famille, on précise quand même, vous avez dit une petite bêtise tout à l'heure, il était bien à l'entraînement aujourd'hui. Lionel Messi, il a les moyens d'être le matin à Crans-Montana à 15h à l'entraînement. Ah, il s'est entraîné aujourd'hui avec le PSG au camp des loges. Mais voilà, on a eu pendant 3 jours des photos de Messi à la montagne avec toute la famille. Il y a eu les photos des enfants sur le télésiège. Il y a eu Léo en doudoune avec le cache-nez, le bonnet, sponsor sur la terrasse du chalet. Il y a eu une autre photo. Dans la piscine chauffée
la piscine,
de l'hôtel.
Bien sûr.
Voilà.
C'est ça là que tu as regardé.
Ça choque personne pendant que ses potes, ils étaient en train de jouer Pays de Cassel en Coupe de France le lundi. Lui, non, il était au ski. Mais parce qu'en fait, il faut aussi comprendre Léo Messi qui a joué la finale de la Coupe du Monde le 18 décembre, qui a repris le 3 janvier, qui était le dernier à reprendre l'entraînement, qui est revenu sur le terrain le 11 janvier. Et donc là, une semaine plus tard, un peu plus, 10 jours plus tard, burn-out, le gars, il a besoin de recouper. Il repart au ski, en famille, pendant 3 jours, parce que là, il s'est dit, non, c'est trop, le rythme est trop intensif pour moi. Et donc finalement, il aura joué donc 3 matchs, il a joué Angers, il est revenu, après il avait fait un match énorme à Rennes, il allait quand même planter un but contre match le duel de Titan là, face à Ronaldo, il a planté un but en Arabie Saoudite, ça compte aussi. Et là juste derrière, il a dealé avec la direction sportive, c'est normal, on a parlé avec la cellule PSG, c'était dealé comme ça, mais moi j'avais cru comprendre que tout le monde était logé à la même enseigne, mais quand Messi
lui, il est
négocie
chalet,
sa prolongation
lui.
De contrat... D'un coup, bah voilà, tu peux avoir quelque
chose. Une question.
Et pas un mot. Non mais juste, c'est moi qui vais te poser la question, Gilbert. Pas un mot dans l'after. Pas un mot nulle part sur Messi à la montagne.
On touche pas
ça
Messi.
Choque personne. Ça, Daniel, si Neymar il se fait une rediff de Love Story la nuit, il va le défoncer pendant 3 semaines. Mais par contre, Messi qui part à la montagne, tout est normal. D'ailleurs, Daniel a pas voulu être là ce soir.
Donc, oui, il évite le sujet. Il évite le sujet.
Voilà.
Voilà. Daniel, voilà. Excusez-le, il se concentre sur la reprise de l'entraînement de Verratti ce matin. Donc,
il peut pas tout faire.
D'après-midi, voilà, 15h d'entraînement.
T'as raison, Jimmy, c'est étonnant parce que rien, quasiment rien. Peut-être 2-3 photos sur les réseaux. Oui, non, mais peu importe.
Peut-être c'est comme en Arabie Saoudite, le club prend des
sous. Et donc?
Non,
absolument pas.
Non, mais comme on nous a vendu cet argument pour le déplacement en Arabie Saoudite, je me dis, ils sont plus énormes.
Jimmy, dans ton enquête, là, parce que le dernier qui est allé au ski, il a fini à l'hôpital, carrière peut-être terminée. Alors, il a fait quoi, Messi, à la montagne? Alors,
voilà. Non, on le voit pas sur les skis.
Messi, c'est quand même un pro. Tu as pu le voir en selfie, oui, en train de conduire la voiture. Il y a deux, touristes qui ont eu la chance de
jouer avec les enfants.
Oui, voilà, c'est un bon
père. Parce que permettez-moi, on connaît un peu la montagne au mois de janvier. Si tu es pas de ski, tu fais quoi, en fait?
Non, mais peut-être qu'il a voulu faire kiffer les enfants. Voilà, accompagner la
famille. Tu peux faire.
C'est pas toi qui vas me dire ça. Je suis le rappeur Sport Games. Il y a la moitié qui ont pas skié il y a 2 semaines.
salle de sport.
Tu peux trouver des occupations, oui, voilà. Non, mais c'est peut-être entretenu, c'est très exactement. Bien. Mais le fait est que tout le monde n'est pas logé à la même ancienne.
Mais non, parce
que
t'as pas gratté.
Il y a la Grand Montana, il en a une chez lui.
Il y a la nature de l'activité, Jimmy, tu sous-estimes ça. Il est en famille, au chaud, tranquille. Tu vois, c'est pas Counter-Strike, c'est pas boîte de nuit, c'est le bon père de famille. Et ça passe plus facilement.
Ouais, oui,
et à chaque photo, c'est avec les trois enfants et madame.
Oui.
Il y a quoi que ça choque, en fait.
Tu vois, on comprend maintenant pourquoi Lyon est dégringolade. Avec des amis comme ça, comment tu veux t'en sortir? Non, mais ça, honnêtement.
Merci, Jimmy. Avant de passer le relais à Gilbert, Daniel et Flo Gautreau, le handball, Arnaud Valadon, c'est chaud. Les Allemands qui, je crois, mènent face à l'équipe de France, quart de finale.
Il menait et on a renversé la tendance. On vient de mettre un 4-0. On était mené de 2 buts, effectivement, Nicolas. 10 minutes 42 jeux dans cette deuxième mi-temps. On est devant 22-20 avec un excellent passage, mais ça va être serré jusqu'au bout.
À tout à l'heure, la fin de ce match dans l'after, les gars, puis dans les matchs en direct également. Sachez que le Barça, pour l'instant, toujours tenu en échec par la Real Sociedad. 0-0, c'est la mi-temps. United qui mène 2-0. Et l'Allemagne, sachez aussi que l'Union de Berlin mène 2-1 sur la pelouse du Werder Bremen. L'Eintracht Francfort, un partout face à Fribourg, l'after avec Gilbert, Daniel et Flo. Merci Sofiane, merci Romain, merci Walid,
merci Nico, merci
génération after, merci de retour demain à 20h. Bye bye.